7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 15 mai. J'espère que vous vous réveillez tranquillement. Europe 1 à votre service ce matin, on vous aide à remplir votre déclaration de revenus. Journée spéciale impôt aujourd'hui. On répond à vos questions avec l'ordre des experts comptables et vous pouvez d'ores et déjà téléphoner au 3921, 50 centimes la minute. Le résultat ce matin du baromètre annuel de la Fraternité, 81% des Français jugent que la diversité est une bonne chose. Mais de la parole aux actes, il existe toujours un fossé. À 7h45, je reçois le philosophe Abdennour Bidar, président de Fraternité Générale, un mouvement créé juste après les attentats de 2015. À 7h20, Europe 1 va plus loin ce matin sur la voiture autonome. La France accélère, vous allez le voir, des tests grandeur nature sont en cours avec des véhicules individuels ou collectifs sans aucun chauffeur à bord. Il fait son grand retour à Cannes, Jean Dujardin revient sur le tapis rouge pour la première fois depuis The Artist. Les infos et les indiscrétions de la Croisette à 8h35 dans le journal du festival avec Mathieu Charrier. Voilà pour le programme. Ça y est, on est réveillé, tout va bien, on commence. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi 15 mai. Et très bon réveil à tous. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et le premier journal de la matinale est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Des soupçons encore plus lourds pour l'anesthésiste de Besançon. Il est en garde à vue depuis hier pour plus d'une trentaine de nouveaux cas d'empoisonnement. Grosse inquiétude pour les salariés d'Ascoval. Soulagés dans un premier temps par l'annonce de la reprise de leur aciérie par British Steel, ils découvrent maintenant que l'entreprise pourrait se retrouver en cessation de paiement. Et puis attention les yeux, les ampoules LED riches en lumière bleue peuvent être dangereuses.
8h15, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, sera l'invité d'Audrey Caspomard.
L'affaire prend donc désormais une dimension effrayante. L'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, est à nouveau en garde à vue depuis hier, déjà mis en examen il y a 2 ans pour 7 cas d'empoisonnement de patients, dont 2 mortels. Il est désormais interrogé sur environ 35 cas supplémentaires, dont une douzaine de décès. Les enquêteurs évoquent la piste du pompier pyromane. Le médecin aurait volontairement mis en danger la vie de ses patients pour pouvoir les sauver juste après. Cette nouvelle étape de la procédure est en tout cas synonyme d'espoir pour des dizaines de victimes et leurs familles, Arthur Elmbaché.
Depuis le début de l'affaire, il attend depuis 2 ans. Il attend que sa maman soit considérée officiellement comme une victime, elle qui est morte. Après une intervention ratée de l'anesthésiste byzantin, ça me rend malade, dit ce jeune homme, de le croiser en ville avec son 4x4 de luxe. En 2 ans, la famille a eu peu de contact avec les enquêteurs. Au tout début, puis à l'automne dernier, quand la police a souhaité exhumer le corps. Et puis, hier matin, dès le début de la garde à vue du médecin, coup de fil de la PJ, rendez-vous ce mercredi, prenez avec vous une photo de votre maman. Espérons que ça bouge, dit le fils de cette victime, qui espère un début de semblant de justice. Maître Frédéric Bernat défend des victimes de la première instruction et de la nouvelle enquête.
Si ces suspicions se transforment en culpabilité, alors clairement, il sera question de parler de tueur en série. Quand vous avez plus de 7 morts sur les mains, vous êtes considéré au regard de la littérature criminologique comme un tueur en série.
Pendant 2 ans, les enquêteurs ont entendu plus de 150 personnes, infirmières, cardiologues, spécialistes, des témoignages précieux et pour certains accablants. On a procédé patient par patient, nous dit un enquêteur, pour voir si c'était compatible avec Péchier ou pas. Besançon, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Et le médecin continue à nier tous les faits qui lui sont reprochés. Les obsèques de Cédric de Pierrepont, célébré aujourd'hui le commando de marine, décédé dans l'opération de libération des otages au Burkina Faso, sera inhumé cet après-midi à l'Armor Plage dans le Morbihan. Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi chez lui en Haute-Savoie.
Douche froide pour les 270 salariés d'Ascoval qui pensaient être sortis d'affaires.
Oui, aujourd'hui même, British Steel reprend réellement l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord. Sauf qu'on apprend que le sidérurgiste britannique a de grosses difficultés et pourrait même se retrouver en cessation de paiement, Emmanuel Duteil.
Alors, officiellement, tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. British Steel promet d'apporter tous les financements promis dans les délais prévus. Du coup, l'État et la région de France ont promis, eux aussi, hier soir, d'apporter le soutien attendu. Et tout le monde en cœur affirme donc que la reprise va se passer normalement aujourd'hui. Mais voilà, derrière cet optimisme, il y a des inquiétudes. Pourquoi ? Eh bien, British Steel est en effet en grande difficulté financière en Grande-Bretagne. Le groupe a dû reconnaître hier qu'il était en négociation avec le gouvernement britannique pour assurer, je cite, la continuité de son activité et la poursuite de ses investissements en Grande-Bretagne. Officiellement, c'est le Brexit qui est à l'origine de ce plongeon. À Bercy, on affirme en effet que les comptes présentés pour la reprise à mars 2018 étaient positifs et que la situation a donc dû se dégrader depuis. Côté syndicat, certains se disaient hier soir lassés et inquiets par ces rebondissements. Bercy promet en tout cas de surveiller le dossier de très près et assure avoir des moyens de pression si British Steel devait traîner des pieds.
Emmanuel Dutheil, malgré le prélèvement à la source, il faut obligatoirement déclarer ses revenus. Journée spéciale sur Europe 1, on vous aide à remplir votre déclaration en partenariat avec l'Ordre des experts comptables dès maintenant. Et jusqu'à 18h, vous pouvez poser toutes vos questions au 39-21.
Oui, c'est 50 centimes la minute Europe 1, il est 7h03.
Le procès du couple Balkany pour fraude fiscale se poursuit devant le tribunal correctionnel de Paris.
Et aujourd'hui, le maire LR de Levallois-Perret va devoir s'expliquer sur son train de vie, luxueux moulin à Giverny, soupçon d'avoir à l'étranger argent liquide à profusion. Pour la petite histoire, 7 billets de 500 euros avaient ainsi été retrouvés dans un de ses costumes au pressing. Et pourtant, Patrick Balkany dément toutes les accusations.
Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. Je n'ai jamais eu d'affaire de corruption. Je n'ai jamais voulu aller à la commission d'appel d'offres. Depuis 36 ans, je n'ai jamais voulu présider la commission d'appel d'offres. Ce n'est pas ça. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches. On l'a fini pauvre.
Voilà, Patrick Balkany au micro Europe 1 de Salomé Legrand. Un mot de politique avec le grand saut pour un élu régional, Andrea Cotarac, ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, quitte la France insoumise. Il va voter pour la liste du Rassemblement national aux européennes. Il explique que c'est pour faire barrage à Emmanuel Macron.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec cet avertissement, les ampoules LED peuvent être dangereuses pour nos yeux et particulièrement pour les enfants. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Elles sont désormais partout dans notre vie quotidienne, mais attention, les ampoules LED peuvent être dangereuses pour nos yeux.
Oui, c'est le message lancé par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Ces éclairages consomment peu, ne coûtent pas cher et durent longtemps, mais avec leur lumière bleue, ils présentent des risques pour la rétine. Mélanie Gomez.
Ce que pointent surtout du doigt ces experts, ce sont les LED qui produisent de la lumière bleue. Alors cette lumière bleue, elle n'est pas émise par les ampoules domestiques qu'on peut mettre dans les lampes chez soi, par exemple. Celles-là, elles sont sans danger. Par contre, elle est diffusée par les ampoules LED de certaines lampes torches, dans les phares des voitures, dans certains jouets, ou encore dans les écrans des smartphones ou des tablettes. Et donc, ce que montre ce rapport, c'est que si on s'expose trop fort ou trop souvent à ces objets, il y a un risque toxique pour l'œil. D'abord, ça peut faire baisser la vue, mais ça peut être encore plus grave, explique l'ophtalmologue Francine Béard-Cohen, et causer de graves maladies de la rétine.
Quand les LED ont une composante bleue très forte, donc quand elles sont un blanc très très froid, elles pourraient entraîner des lésions, du stress oxydatif et donc favoriser le vieillissement en particulier, et donc pourrait être un des facteurs, comme le soleil d'ailleurs, d'aggravation ou en tout cas d'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, entre autres.
Enfin, le deuxième risque de cette lumière bleue, c'est que lorsqu'on s'y expose le soir ou la nuit, elle perturbe notre horloge biologique et donc notre sommeil. Les plus sensibles, ce sont les enfants et les ados, car leurs yeux, leur cristallin surtout, est en plein développement et n'est pas capable de filtrer correctement la lumière bleue comme chez les adultes.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
On part sur la croisette maintenant avec Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem qui ont ouvert hier soir le 72e Festival de Cannes.
Quel accent, 21 films en lice jusqu'au 25 mai prochain. Et parmi les stars attendues sur le tapis rouge, Jean Dujardin, son nouveau film D'un de Quentin Dupieux, ouvrira la quinzaine des réalisateurs. Mathieu Charrier l'a rencontré pour Europe 1.
La première fois que Jean Dujardin est venu sur la croisette, c'était il y a 16 ans.
J'avais trouvé une petite couche sur un bateau. J'avais fait la fête toute la nuit. J'étais rentré à 5h30 du matin, pieds nus, avec un smoking. Je trouvais ça très classe, comme dans une pauvre pub des années 80.
Depuis, son statut a bien changé, grâce notamment à Cannes. Car c'est ici que l'aventure The Artist a commencé en 2011. Prix d'interprétation pour Dujardin, avant de décrocher l'Oscar.
Très bon souvenir. Ici, d'ailleurs, je m'en souviens de cette terrasse-là. J'ai appris que DSK s'était fait arrêter sur cette terrasse. D'ailleurs, je pense que ça avait été un choc pour tout le monde, d'ailleurs, ici.
Et depuis, l'acteur aime surprendre à l'affiche de films de George Clooney ou Martin Scorsese, en surfeur loser dans Brise de Nice, avant d'endosser donc ce manteau de daim qui lui donne envie de tuer tous ceux qui portent un vêtement différent.
On a tous à un moment voulu avoir aussi un pantalon en cuir. On s'est dit, on va pas mettre un pantalon en cuir, ça se met pas, c'est pas possible. J'ai des bottes en daim. Bon, moi, c'est des bottes en daim. Voilà, il a juste une idée fixe.
Et l'acteur vient d'ailleurs de finir le tournage de J'accuse de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus, avant de reprendre le costume d'Hubert Bonisseur de la Batte dans le très attendu OSS 117 numéro 3.
Je pense aux essayages costumes du prochain OSS. Alors, je vous dirai pas l'année. Si je vous dis Tergal, par exemple, on est. Voilà, on devine. Oui, bah, surtout, il y aura peut-être de la Macronie dedans.
Le tournage débutera à l'automne prochain. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Comment vous l'auriez dit, vous, Javier Bardem?
J'aime très mal.
Xavier Bardem ou non?
Mathieu Charrier, en tout cas, on va le retrouver dans le journal de Cannes tout à l'heure à 8h35. Et puis Antoine Griezmann, lui, quitte l'Atlético Madrid après 5 saisons. Le champion du monde français l'a annoncé sur les réseaux sociaux hier soir. On dit que les discussions seraient déjà bien engagées avec le FC Barcelone.
C'était le journal d'Hélène Zelani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10, l'heure de retrouver Carole Ferry, comme chaque jour, qui se trouve sur le terrain, Nikos.
Et ce matin, vous êtes où précisément, Carole? Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Et bien ce matin, je suis à l'endroit où j'ai vécu hier des moments très forts au sein d'un groupe de parole sur l'obésité et sur ce qui fait le plus souffrir ces personnes, la grossophobie, le rejet des personnes en surpoids. On le connaît, hein, ce regard. Ouais. Mais on est loin d'imaginer la violence subie au quotidien. Les femmes que vous allez entendre pèsent toutes plus de 100 kilos. Et si elles viennent ici, à l'association En Date, à Paris, c'est pour partager et puis tenter de soulager un peu leur souffrance.
Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu les différentes formes de violence, et notamment la violence faite aux personnes qui sont en obésité, ce qu'on appelle la grossophobie.
Alors justement, la peur du gros, pour nous, c'est pas très concret. C'est plutôt la haine du gros.
Carrément la haine.
Et c'est pas qu'on a peur, c'est qu'on n'aime pas les gros. Ça va être les réflexions, toi la grosse, les réflexions des directeurs d'école aussi. Une directrice, une fois, m'a dit « ça m'étonne pas qu'avec toute cette cellulite, tu sois si lente à marcher ». Ça va être lorsqu'on recherche de l'emploi. On m'a clairement un jour envoyé mon CV avec écrit « poids » dessus pour me montrer que c'était pas possible.
Oui, je suis d'accord, c'est comme ça que je le ressens. En fait, la souffrance, c'est surtout les autres. Parce que personnellement, moi, je me trouve jolie, j'accepte mon corps toute nue, même je peux me trouver désirable, etc. Mais c'est ce que les autres nous renvoient.
C'est incontrôlable pour nous et qu'il faut nous accepter tel qu'on est, en fait.
Ce qu'il faut dire, Carole Ferry, c'est que l'obésité est loin d'être une simple question de volonté, en fait.
Exactement, ouais. Hein, Nikos. Et certains obèses vont même jusqu'à s'affamer pour tenter de maigrir. Sans succès, alors que la cause peut être génétique, hormonale, l'effet secondaire d'un traitement ou encore les conséquences d'un traumatisme, rien à voir en tout cas pour Hélène avec la volonté.
On a une petite voix, un petit diablotin qui nous dit « mange, mange, mange ». Et limite, on mange pour être débarrassé, pour qu'il nous laisse tranquille en fait. Je veux dire, si une personne va faire une crise de tétanie, jamais ça va venir à l'idée de se dire qu'elle est responsable. Au contraire, on va lui venir en aide. Ben, nous, quand on a une crise et qu'on a besoin de manger, ben, c'est la même chose. C'est pas une question de motivation en fait. On le subit et on a au contraire énormément de volonté pour vivre avec cette maladie.
Avec ce diablotin.
Voilà, exactement.
Et vous savez que certains obèses renoncent même à consulter un médecin, car beaucoup connaissent encore mal cette maladie. Et ce sont les médecins, souvent, qui ont les mots les plus violents.
Oui, grossophobie, c'est une autre maladie, avoir peur de l'autre, tout simplement. Et changer son regard sur les personnes en surpoids, c'est précisément l'un des objectifs des Journées européennes de l'obésité qui ont lieu ce vendredi 17 mai. Merci Carole Ferry pour le reportage.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, Nicolas Barré. Bonjour,
Nicolas. Bonjour Nico. Je vais vous parler d'aéroport parce que tout le monde n'a pas les mêmes états d'âme que nous sur la privatisation.
Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. À 7h20, la voiture autonome accélère. En France, des tests grandeur nature sont en cours sans aucun chauffeur ni opérateur à bord. Transport collectif ou individuel, livraison. C'est une révolution qui est en marche. Elle débarque bientôt sur nos routes. Dossier à suivre dans Europe 1. Va plus loin, tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h13. Et les 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
L'anesthésiste de Besançon a passé la nuit en garde à vue, déjà mis en examen pour 7 empoisonnements. Il est maintenant soupçonné de plus d'une trentaine de cas supplémentaires, mais il clame toujours son innocence. C'est une information Europe 1, le visage d'Emmanuel Macron va apparaître sur une affiche pour les européennes, avec ce slogan « En marche pour l'Europe ». Le 26 mai, je vote Renaissance. Mobilisation internationale aujourd'hui à l'Elysée contre la violence sur Internet. Facebook décide de restreindre l'usage de sa plateforme vidéo en direct. Elle avait été utilisée par le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour diffuser le massacre de 51 personnes dans deux mosquées. Le footballeur Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid. Il l'a annoncé dans un petit message vidéo hier soir. Il pourrait rejoindre le FC Barcelone.
Europe 1. L'économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la Banque Tarnot pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, avec nous ce matin. Alors, Aéroport de Paris ne sera peut-être jamais privatisé, vous en avez parlé ces derniers temps, ces derniers jours. En revanche, à Londres, là, on n'a pas d'état d'âme pour confier les clés d'un aéroport à un étranger.
Et même un Français, puisque le groupe Vinci, qui est vilipendé ici en France pour les tarifs d'autoroute, eh bien là-bas est accueilli à bras ouverts par les Anglais. Vinci a officiellement pris le contrôle hier du grand aéroport londonien de Gatwick. Ils ont mis 3,2 milliards d'euros sur la table pour prendre le contrôle de cet aéroport qui accueille 46 millions de passagers par an, ce qu'il situe disons entre Orly, qui est à 33 millions et Roissy, qui est à 72 millions.
Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays, Nicolas Barré. Les Anglais veulent bien de Vinci pour gérer un aéroport majeur et en France, on se méfie.
Oui, il y a beaucoup d'a priori là-dedans. Alors, avec l'acquisition de Gatwick, Vinci devient le deuxième opérateur d'aéroport du monde, le premier acteur privé mondial, avec 46 aéroports un peu partout dans le monde, d'ailleurs jusqu'au Japon, avec cet aéroport du Kansai qui avait été construit à la fin des années 90 sur une île artificielle au large d'Osaka. Puis, ils ont aussi des aéroports dans des pays aussi différents que le Cambodge, le Portugal, les États-Unis, le Brésil. Mm-hmm. En France, ils possèdent une douzaine d'aéroports régionaux, dont Nantes Atlantique et Lyon Saint-Exupéry. D'ailleurs, Vinci n'est pas le seul. On a appris hier soir par exemple qu'un autre groupe privé, Eiffage, allait reprendre l'aéroport de Toulouse qui avait été racheté par les Chinois. Seulement voilà, alors que le privé fait ses preuves donc un peu partout dans la gestion des aéroports, y compris donc dans des grandes villes françaises, eh bien l'idée même de privatiser ADP heurte encore une partie de l'opinion.
C'est peut-être aussi une question d'image, Nicolas.
Oui, les grandes entreprises comme Vinci et d'autres n'ont pas toujours une bonne presse. On se dit que le privé aussi ne sera peut-être pas capable de s'engager sur plusieurs décennies, contrairement à l'État. Mais c'est un tort, parce que la France, depuis le 19e siècle, a été pionnière dans le développement d'entreprises capables de gérer des concessions de très longue durée. Des groupes comme Veolia ou Suez, par exemple, sont des leaders mondiaux dans la gestion de l'eau et des déchets qui nécessitent des investissements sur plusieurs décennies. Vinci, c'est un groupe de BTP qui s'est diversifié dans des concessions également, qui réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger. La privatisation d'ADP aurait permis à un groupe français de se renforcer dans ce métier, donc d'être encore mieux armé pour conquérir de nouveaux marchés. Et y renoncer pour des raisons idéologiques, c'est un raisonnement à courte vue. Pour une fois, nous ferions mieux de nous inspirer des Anglais.
Nicolas Barré pour l'édito éco tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Ce matin, enquête Nikos sur le développement des véhicules autonomes.
Les véhicules autonomes, ces engins sont-ils fiables? Comment vont-ils s'intégrer dans la circulation? Peut-on vraiment faire confiance à des véhicules sans chauffeur? Pour en parler, Aurélien Fleureau, le spécialiste transport à Europe 1, est avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Et de nombreux projets vont voir le jour dans les mois qui viennent. La France accélère.
Exactement. Et la prochaine étape, c'est de ne plus avoir personne à bord de ces navettes autonomes qui circulent déjà aujourd'hui. Pas d'opérateur présent pour reprendre la main en cas de besoin. Alors il y aura toujours une supervision, mais elle se fera à distance. C'est ça la grande nouveauté. Et pour en arriver là, la France mène deux actions parallèles. D'abord, on est obligé de faire évoluer notre cadre législatif. Ça, ce sera dans la loi Pacte. Et puis, on investit massivement plus de 110 millions d'euros sur une quinzaine de projets.
Alors justement, parmi ces projets, il y a celui de Toulouse. Et vous, oseriez-vous monter dans un véhicule autonome sans aucun opérateur à bord? Reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter.
Pas de volant, pas de pédale, juste une quinzaine de places comme dans n'importe quel transport en commun et tout autour une profusion de capteurs pour localiser la navette, assurer la sécurité des passagers et de son environnement. Alexandra Marlier, qui est chef de projet chez EasyMile, a accepté de tester la fiabilité de la navette en se mettant face à elle sur leur piste d'essai.
On voit que la navette s'arrête. Si on repart, la navette nous suit en adaptant sa vitesse. Et ensuite, donc, si on se décale, on simule un obstacle brutal. fait, là, la navette pile lorsqu'on se jette devant.
La navette est capable de repérer un passage piéton, déterminer la couleur d'un feu de signalisation. Pour Benoît Perrin, directeur des opérations, cette sécurité est essentielle pour que les usagers acceptent de grimper dans un véhicule sans chauffeur.
On est passé par ce qu'on avait appelé un opérateur masqué, qui était habillé comme un passager classique, mais qui était là pour intervenir en sortant son badge, si nécessaire, pour voir l'acceptation des gens. Comment les gens se comportent sans personne à bord? Le mot-clé, c'est la progressivité. Donc sur des choses simples, aujourd'hui, on est prêt. Et puis peu à peu, on va être sur des choses de plus en plus compliquées.
À l'intérieur, on dépasse rarement 20 km/h et on oublie très vite que personne ne conduit. Pour Mathieu Petit, qui est ingénieur, on va tous très vite s'habituer.
J'aime comparer ce service aux ascenseurs dans les années 50. Les gens avaient peur de prendre les ascenseurs. Et il y avait des grooms à l'intérieur pour habituer les gens. Et maintenant, c'est complètement usuel de pouvoir monter 10 étages en 10 secondes. Demain, ça sera usuel de monter dans ces petites navettes.
Une soixantaine de véhicules comme celui-ci circulent actuellement sur des sites privés. D'autres projets vont arriver, notamment à Toulouse. Dès le mois d'août, le site de Loncopol devrait être le premier site public au monde à faire rouler une navette sans aucun opérateur à bord. Alors, sur la base de Franck Azal à Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
J'ai entendu le reportage de Benjamin Péter, mais Aurélien, des projets comme celui de Toulouse, il y en a une quinzaine un peu partout en France.
Oui, par exemple, ce matin seront présentées les navettes qui vont circuler sur des voies réservées sur le plateau de Saclay dans l'Essonne. Ça va commencer dans quelques semaines. Vous aurez aussi un service de navettes qui va arriver à l'aéroport de Nantes, là, spécifiquement pour compléter le réseau de tram. Et puis, du côté de Montpellier, une start-up finalise son projet de livraison de colis par Droid, des robots livreurs directement dans les commerces du centre-ville. Tous ces projets sont soutenus par l'État, qui a choisi deux consortiums chargés de les développer. On y trouve des constructeurs automobiles, Renault, PSA, des équipementiers comme Valeo, mais aussi des collectivités et des opérateurs de transport en commun.
En fait, c'est principalement dans les transports en commun qu'on va les avoir, en fait.
Oui, ces navettes collectives ou ces robots taxis parfois seront utiles sur des trajets courts pour aller à la gare, chez le médecin, faire quelques courses, aussi bien dans les zones rurales que périurbaines. Et puis ensuite, direction les centres-villes. Mathieu Dunan est directeur de l'innovation à la RATP. Il pilote trois projets, dont un totalement inédit. L'insertion de navettes autonomes dans le pire trafic de France, hein, en plein Paris, ce sera dans le 13e arrondissement, et forcément, ça nécessite quelques adaptations.
Mais c'est aussi travailler sur des questions techniques, comme par exemple le lien avec les infrastructures. On parle beaucoup de feux rouges connectés et de carrefours connectés. C'est quelque chose qu'on va expérimenter à cette occasion. C'est vraiment l'ensemble de l'écosystème urbain qu'on s'attache à étudier avec cette expérimentation.
Mmh. Aurélien, est-ce qu'on sait quand on conduira vraiment des voitures individuelles 100% autonomes? Enfin, conduire, c'est un grand mot.
Mais... Ouais, bah justement, si vous voulez lire sur la banquette arrière tout en roulant, ce ne sera pas avant 2030, voire même 2040, disent les constructeurs, même si on fait des progrès. Hein, PSA et Renault sont en train de faire des tests sur des tronçons d'autoroute, principalement pour évaluer à quelle vitesse elles seront autorisées à rouler, hein, parce qu'on peut dire que clairement, la technologie fonctionne.
Ça fonctionne, mais est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un permis de conduire?
Bah ça, c'est en train d'être discuté. On ne sait pas exactement encore, parce que la voiture autonome, 100% autonome, elle n'existe pas encore. Donc, bah, ce sera en train d'être décidé.
La voiture autonome bientôt sur nos routes et dans nos rues. Merci Aurélien Fleureau, spécialiste de transport à Europe 1, pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Anicet Mbida, bonjour.
Bonjour Nikos.
On va parler de quelque chose de très sérieux qui concerne beaucoup de monde, la chimiothérapie.
Oui, parce qu'on a trouvé une technique qui les rend beaucoup moins toxiques pour l'organisme et qui évite donc les pertes de cheveux et les nausées notamment.
A tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h24. Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anicet Mbida, Nikos.
Et ce matin, on va parler de chimiothérapie. Et c'est vrai que beaucoup les redoutent parce que les effets secondaires sont parfois très lourds. On perd ses cheveux, on a des nausées. C'est violent, c'est dur les chimiothérapies. Mais ce matin, vous arrivez avec un peu d'espoir, Anicet Mbida, car des scientifiques semblent avoir trouvé un moyen de limiter ces effets secondaires.
Oui, ils ont réussi à restreindre l'effet de la chimiothérapie à une zone, hein, à un organe en particulier, là où il y a des tumeurs, donc à éviter que le produit se diffuse dans tout le corps. Parce qu'on le rappelle, hein, la chimiothérapie, c'est avant tout un poison qu'on injecte dans le sang, qui va détruire bien sûr les cellules cancéreuses, mais aussi au passage des cellules parfaitement saines, et c'est ce qui provoque, hein, les fameux effets secondaires.
Est-ce qu'on peut dire à nos auditrices, auditeurs ce matin, pourquoi on perd ses cheveux après une chimiothérapie?
Mais parce qu'une chimio va s'attaquer à tout ce qui ressemblent de près ou de loin à des cellules cancéreuses, c'est-à-dire toutes les cellules qui vont se reproduire extrêmement vite. Or, c'est exactement le cas des follicules des cheveux, c'est pour ça qu'on a des cheveux qui poussent, et des cellules de l'estomac. Et c'est donc la raison pour laquelle on a des maux de ventre, énormément de maux de ventre, et qu'on perd ses cheveux. Et bien, pour éviter justement ces symptômes, hein, ces effets secondaires, et bien, des chercheurs de l'Université de Columbia ont mis au point une sorte d'éponge que l'on va placer sur la veine à la sortie de la zone à traiter.
D'accord.
Cette éponge va absorber tout l'excès de chimiothérapie, elle l'est tout l'excès de poison, et éviter comme ça qu'il se diffuse dans le reste du corps.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aussi augmenter les doses et être plus efficace s'il y a moins d'effets secondaires ?
Oui, c'est exactement l'objectif de cette technique, hein, parce qu'aujourd'hui on limite les doses justement pour limiter l'effet secondaire. Et vous savez qu'aujourd'hui on a des médicaments extrêmement efficaces pour traiter des infections par exemple, mais on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont toxiques pour les reins par exemple. Et bien avec cette méthode, on pourrait protéger les organes qui sont les plus sensibles pendant qu'on fait des traitements extrêmement lourds.
Voilà, c'est un sujet délicat. J'ai une pensée particulière ce matin aux patients encore hospitaliers de tous les services oncologiques de France qui font un travail extraordinaire. Merci Agnès Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, le point météo avec Laurent Cabrol.
Avec vous, mon cher Laurent Cabrol.
Eh oui, et le soleil qui aide à effacer bien des misères. Eh bien, ce soleil, nous l'aurons encore aujourd'hui, nous l'aurons encore demain. Et ensuite, il va commencer à se faire plus discret. Nous aurons, à partir de dimanche, vendredi, des orages sur toute la moitié sud de la France. Et ensuite, ça va se gâter pour le congé de fin de semaine. On n'en est pas là. Profitons de ce soleil pour cette journée, avec une petite exception, les frontières de l'Est et surtout les Alpes-Maritimes, la Corse et la Provence ce matin. Ce sont des régions qui sont à caractère orageux, mais enfin, c'est vraiment une toute petite partie du pays, dans des contrées qui ont besoin d'eau aussi, faut bien le dire. Le vent de nord-est est présent, 60-70 km/h. Eh oui, on appelle ça la bise venue du nord-est. Et cette bise sera encore présente et elle va rafraîchir l'atmosphère, comme hier d'ailleurs et comme avant-hier. 15 degrés à Épinal, sous abri, c'est la température maximale de la journée. 15 degrés dans le territoire de Belfort. À Dijon, Nancy, Nice, Clermont-Ferrand et Strasbourg, entre 16 et 17. Si vous habitez Lille, Lyon, Caen, Marseille, Soissons, 18. 19 à Paris, Limoges, La Rochelle, Cognac, Rennes, entre 20 et 21. 23 degrés à Toulouse, Bordeaux et Brest et 26 degrés dans les Landes. Telles sont donc les températures maximales de cette journée.
Merci mon cher Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
À suivre Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40. On vote déjà dans 10 jours pour les européennes, mais on a l'impression que la campagne n'a pas encore vraiment commencé. À 7h43, Axel de Tarlé, Bruxelles réfléchit à taxer le kérosène aujourd'hui. Le carburant des avions échappe à toute fiscalité. Et à 7h45, on va vous dire que 8 Français sur 10 jugent que la diversité est une bonne chose, certes, mais il existe au quotidien, dans la réalité, un fossé entre la parole et les actes. À 7h45, justement, je reçois le philosophe Abdennour Bidar, président du mouvement Fraternité Générale.
Bienvenue sur Europe 1 ce mercredi 15 mai, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. 5 saisons et puis s'en va, cette fois c'est la bonne. Antoine Griezmann a annoncé hier qu'il allait quitter l'Atlético Madrid. La question maintenant évidemment est de savoir où il va jouer la saison prochaine. L'international français pourrait rejoindre le FC Barcelone pendant l'été. Henri de Laguérie.
L'été dernier, déjà, Antoine Griezmann était sur le point de partir, mais son entraîneur Diego Simeone avait réussi à le retenir. Mais après une saison sans le moindre trophée et une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Français a finalement officialisé son départ.
J'ai pris la décision de partir pour voir d'autres choses et relever d'autres défis. Ça a été difficile de faire ce choix-là, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et je tiens à vous remercier pour toute l'affection que vous m'avez témoignée au cours de ces 5 années.
À 28 ans, Griezmann, arrivé en Espagne à l'âge de 13 ans et formé au Pays Basque, veut enfin remporter un titre majeur avec l'Atlético. Il n'a gagné qu'une Europa League en 5 saisons. Le champion du monde devrait donc rejoindre Barcelone. Le club catalan a besoin de recruter une star pour tenter de faire oublier cette humiliante remontada infligée par Liverpool la semaine dernière. Le transfert pourrait être officialisé dans les prochains jours. Reste à savoir si le petit prince, comme on l'appelle ici, arrivera à s'entendre avec Lionel Messi. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1.
La garde à vue de Frédéric Péchier pourrait être prolongée ce matin par le parquet de Besançon. Cet anesthésiste déjà mis en examen pour 7 cas d'empoisonnement de patients et cette fois interrogé pour des dizaines d'autres cas suspects. Ce père de famille, 47 ans, clame son innocence depuis le début. C'est aujourd'hui en l'église de l'Armor-Plage que vont être célébrées les obsèques de Cédric de Pierrepont, l'un des deux soldats d'élite tués la semaine dernière au Burkina Faso lors d'une opération de libération d'otages. L'enterrement d'Alain Berton-Cello se tiendra samedi en Haute-Savoie à Montagny-les-Lanches. Hier, les deux militaires ont reçu les honneurs de la nation aux Invalides à Paris.
La fin du suspense ce soir pour les vœux formulés pour Parcoursup.
Oui, près de 900 000 candidats vont connaître à partir de 19h les avis des établissements. Ce sera la délivrance pour certains, le début du parcours du combattant pour d'autres. Et la question, seront-ils acceptés dans la formation de leur choix ? Ce que l'on sait déjà, c'est que les écoles d'infirmiers et d'infirmières enregistrent un succès inédit sur Parcoursup. La formation est en tête des demandes, Virginie Salmen.
Fini le concours d'école d'infirmière où il fallait prendre le train pour aller passer les épreuves dans plusieurs régions pour maximiser ses chances et payer les billets plus l'inscription à chacun des concours. Désormais, ces 326 écoles sont accessibles sur dossier scolaire via Parcoursup. Et selon Jérôme Teillard, le monsieur Parcoursup du ministère de l'Enseignement supérieur, ça va répondre à une difficulté de recrutement des infirmiers.
Les formations d'infirmiers avaient souhaité rejoindre Parcoursup précisément parce que ça apportait un surcroît d'attractivité. Ça permettait de répondre à des problématiques parfois de difficultés de recrutement sur des métiers qui sont aussi difficiles, donc exigeants en tout cas. Donc là, il y a un vrai effet, un vrai engouement de la part de lycéens. On a de l'ordre d'un 1,5 million de vœux qui ont été formulés par l'ensemble des candidats présents sur Parcoursup.
1,5 million de vœux, en comptant les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Les autres formations les plus demandées cette année sont le droit en deuxième position, puis la médecine, la filière PACES.
Virginie Salmen, nouvelle crainte sur l'avenir de l'acierie Ascoval. Le repreneur British Steel serait au bord de la faillite, selon la presse britannique. Le 2 mai dernier, le groupe a été choisi pour reprendre le site de Saint-Saulve et ses 270 salariés. Europe 1 vous aide à remplir votre déclaration de revenus aujourd'hui en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le 3921 et si vous utilisez la déclaration papier, sachez que vous avez jusqu'à demain minuit, jusqu'au 21, 28 mai ou 4 juin en fonction de la zone où vous vous trouvez si vous remplissez donc votre déclaration sur Internet.
Vous faites peut-être partie de ces Français qui boivent de moins en moins de lait.
Et oui, en 15 ans, la consommation a baissé de 25%, chiffre publié par le syndicat professionnel du secteur. Et ce qui est inquiétant pour la filière lait, c'est que le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Chanel Petit.
Un verre de jus d'orange, une pomme, de la brioche, j'ai un peu de céréales aussi.
Mais pas de lait sur la table de Guillaume à l'heure du petit déjeuner. Il en a bu toute son enfance, n'en consomme plus une goutte.
Je me forçais tout simplement à en boire, croyant que c'était essentiel pour la croissance et pour les os. Après discussion avec mon médecin, je me suis rendu compte que c'était pas si essentiel que ça. Et donc, j'en bois plus du tout aujourd'hui.
Il y a ces Français comme Guillaume qui ne croient plus aux bienfaits annoncés des produits laitiers. Il y a aussi ceux qui ont perdu confiance dans la filière. Emmanuel Vasnex, le vice-président du syndicat des professionnels du lait, espère les reconquérir grâce à de nouveaux produits.
Aujourd'hui, un certain nombre de consommateurs nous interpellent sur l'origine, nous interpellent sur l'équitabilité, nous interpellent sur le bien-être animal, etc. Il faut trahir tous ces angles-là et c'est pour ça que vous avez vu se développer un certain nombre de produits comme par exemple Cekit Patron, Fair France, qui donnent de la réassurance par rapport effectivement aux consommateurs.
Et toujours dans l'idée de reconquérir les consommateurs, les industriels misent désormais quasiment exclusivement sur du lait produit et conditionné en France, 97%. Le reste est importé de Belgique et d'Allemagne.
Chanel Petit pour Europe 1. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui la première ministre néo-zélandaise, l'occasion pour les deux dirigeants de lancer l'appel de Christchurch pour agir contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur Internet. D'ailleurs, Facebook restreint l'usage de sa plateforme de vidéos en direct. Un Monet vendu à près de 111 millions de dollars hier soir à New York. C'est un record pour l'artiste. Ouais, vente organisée par la maison Sotheby's. La toile fait partie de la série des meules du peintre français.
Magnifique. Vous êtes amatrice d'art pictural et d'art
tout
plastique.
Tout à fait.
Un peintre préféré?
J'aime beaucoup Charles Bell qui vient de ma région.
D'accord, on vous garde deux tableaux. Merci beaucoup, c'était Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Mon cher Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos.
Elles sont où ces élections européennes ?
Mais on se pose la question, la campagne ne démarre pas, ne décolle pas, personne ne s'y intéresse. On peut parler d'une campagne maudite et on va essayer d'expliquer pourquoi ce matin.
Avec plaisir, Axel de Tarlé, racontez-nous tout.
Bruxelles planche sur une taxe sur le kérosène, ce qui augmenterait de 10% le prix des billets d'avion.
Vous allez avoir le talent pour me donner envie d'écouter cette chronique.
Ah bah,
parce que la taxe sur le kérosène, a priori sur le papier, on n'est pas spécialiste. Mais vous, vous pouvez le nous
Est-ce
rendre.
Qu'on va être content de payer plus cher au nom de l'écologie ?
Ah ben voilà, voilà une vraie question. A tout de suite les amis, à Patty Tarlé dans un instant sur Europe.
Très belle matinée à tous, il est 7h36. Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
On vote dans 10 jours pour les élections européennes. Dans d'autres pays européens, il y a une ferveur qu'on ne sent pas ici. Ce sera le 26 mai. On a le sentiment, Jean-Michel, que la campagne n'a pas encore commencé.
Non, on peut même parler de campagne maudite, parce qu'en France, vous avez raison, ailleurs, ça débat un peu plus de l'Europe.
J'étais au Portugal le week-end dernier, il y en a partout, tout le monde parle de ça dans la rue.
Oui. Bah en France, non, pourquoi ? Parce que le début de l'année a été mangé par les Gilets jaunes, par le grand débat.
Ah oui.
On a attendu les conclusions du président de la République, on les a attendues un petit moment, il y a eu du suspense. Là-dessus, l'église de Notre-Dame a la bonne idée de brûler, donc tout ça, ça nous occupe. Après, on a deux semaines de mai qui sont plombées par deux jours fériés au milieu de la semaine, 1er mai, 8 mai. On se dit, la campagne électorale va démarrer, hélas, le drame au Burkina Faso, deux soldats qui meurent, l'hommage national hier, et la campagne européenne, ben, elle ne s'installe pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disponibilité des citoyens pour écouter des têtes de liste qui, par ailleurs, font campagne. Alors, des têtes de liste, comme on nous a mis du quatrième choix, c'est une campagne du quatrième choix
aussi.
On en
parle sur notre antenne, on en parle dans les médias en général, mais bon.
Oui, on en parle, mais si on écoutait vraiment ce que disaient les têtes de liste, parce que c'est aussi l'une des explications pour lesquelles cette campagne ne suscite pas d'enthousiasme, c'est qu'en gros, tout le monde dit un peu la même chose. Il y a une insatisfaction par rapport à Schengen, la manière dont l'Europe garde ses frontières. Il y a un acquis aujourd'hui pour toutes les grandes listes sur l'euro. Ça n'a pas tout le temps été le cas. Donc, qui dit acquis sur l'euro, dit acquis sur les règles de l'euro. Après, on nous bassine avec les 3%, tout ça. Enfin, globalement, il faut des règles pour gérer une monnaie commune. Et tout le monde est pour la monnaie commune. Et parmi les grandes listes, il n'y a personne qui dit qu'il faut que la France quitte l'Europe. Donc, il y a, en fait, en France, des consensus très importants sur l'Europe, ce qui vit de la campagne de son intérêt. Lisez ce matin, si vous avez le temps, l'interview de Laurent Wauquiez dans Le Parisien. Il parle de tout sauf de l'Europe. C'est une interview consacrée à l'Europe. Mais il ne parle que d'Emmanuel Macron. Il ne parle pas du tout de l'Europe. Donc, les gens ne s'intéressent pas à l'Europe parce qu'au fond, les forces politiques n'ont pas grand-chose de particulier à nous dire sur l'Europe. Il faut même noter, parce que la politique française est pleine de bizarreries, quelquefois la politique tout court, mais la politique française singulièrement, il faut noter cette chose étrange que la science politique n'arrivera jamais à expliquer. Le Front National, en 2014, a réuni 25% des suffrages. Mmh. Et à l'époque, le Front National disait qu'il faut sortir de l'euro. L'euro, c'est une prison, et on n'arrivera à rien si on reste dans l'euro, il faut en sortir.
Ils disent plus ça.
2019, les sondages accordent au Rassemblement National, puisqu'ils ont changé de nom, à peu près le même nombre de voix qu'en 2014. Mais le Rassemblement National dit l'inverse de ce que disait le Front National. Maintenant, il faut rester dans l'euro. Ces gens-là sont capables de changer d'avis comme de chemise, et les électeurs les suivent. Mmh. C'est curieux quand même. C'est pour ça aussi que la politique est souvent décevante. Vous avez l'impression qu'on pourrait raconter n'importe quoi, et au fond, les gens sont d'une crédulité quand même assez considérable, ce qui fait que cette campagne électorale n'arrive à intéresser personne, et que probablement le 26 mai, nous enregistrerons un record, celui des abstentions, hélas.
Jean-Michel Apathy pour l'analyse politique de la matinale. Axel de Tarlé, Bruxelles envisage de taxer le kérosène. Le prix des billets d'avion pourrait décoller. En quoi ça nous concerne ?
Alors Zec, justement, ça c'est l'un des enjeux de ces élections européennes, puisque taxer le kérosène, c'est au programme de Nathalie Loiseau et de Raphaël Glucksmann. Donc c'est une idée qui pourrait être portée au niveau européen si les listes qui y sont favorables sont élues.
Mais il faut une unanimité pour ça.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, le kérosène ne supporte aucune taxe. Il n'y a même pas de TVA. Hein. Le ciel, il faut bien voir, c'est un paradis fiscal pour le CO2, hein, alors qu'on a un sujet de pollution dans le ciel. Mmh. Je rappelle que parmi les 10 plus gros pollueurs en Europe, nous avons 9 sociétés de centrales à charbon et une compagnie aérienne, Ryanair. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était l'une des revendications des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce qu'on surtaxe l'essence alors que le kérosène, pas du tout ? Alors le message est reçu, donc Bruxelles travaille sur une taxe kérosène qui serait valable à l'intérieur de l'Europe. Une taxe, alors l'essence est taxée 90 centimes le litre hein, en moyenne. Le kérosène, là, serait quand même taxé 33 centimes le litre, donc vous voyez, c'est pas rien. Et cette taxe kérosène, donc Bruxelles fait des études, renchérirait effectivement le prix des billets d'avion en moyenne de 10%. Et donc, bah ça c'est la loi du marché. Si on augmente le prix, la demande baisse et donc la commission s'attend à une baisse de 11% du trafic aérien, simplement parce que des passagers renonceraient à prendre l'avion devenu trop cher. Donc si on renonce à prendre l'avion, à la clé, il y a moins de pollution.
Oui, mais concrètement, ça veut dire qu'on aura une taxe de plus. Et on a bien vu que les Français, vis-à-vis des taxes, sont suspicieux. Il y a un ras-le-bol, on l'a vu avec les gilets jaunes.
Alors, vous avez tout à fait raison. Si cette mesure consiste finalement à faire grimper les prix pour que les plus pauvres, alors on dit maintenant les ménages les plus modestes, ne puissent plus prendre l'avion ou n'en aient plus les moyens, effectivement, ce n'est pas socialement acceptable. En tous les cas, ce n'est pas très gilet jaune comme mesure. Sauf si, alors justement, c'est ce qu'a montré d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes. Sauf si justement on utilise le produit de cette taxe, en l'occurrence 3,5 milliards d'euros par an, non pas pour financer le budget de l'État, mais pour réorienter les passagers vers des modes de transport moins polluants. Parce qu'en France, on a une alternative moins polluante. C'est le TGV, 40 fois moins polluant que l'avion. Sauf que c'est aberrant, mais bien souvent, un billet de TGV vaut plus cher qu'un billet d'avion. Bah justement, utilisons le produit de cette taxe kérosène, si elle se fait, pour diminuer le prix du TGV et nous inciter à préférer systématiquement le train plutôt que l'avion. C'est ce qu'on appelle, c'est la fameuse écologie incitative et non pas punitive.
Merci Axel de Tarlé, c'était le Zoom Echo.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, un entretien à propos de la diversité. 80% des Français jugent que la diversité est une bonne chose. Des paroles aux actes, il y a encore un fossé. Dans un instant, je reçois le philosophe Abdennour Bidar, président de Fraternité Générale. Un mouvement créé juste après les attentats de 2015. A tout de suite.
Excellente matinée à tous sur Europe 1. Il est 7h45. C'est les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Un médecin anesthésiste de Besançon de nouveau en garde à vue depuis hier matin. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir empoisonné des dizaines de patients. Certains sont morts et ce médecin a déjà été mis en examen depuis 2 ans pour d'autres cas et il clame toujours son innocence. Antoine Griezmann est de l'Atlético Madrid. C'est fini, le joueur y évoluait depuis 5 ans. Il pourrait rejoindre le FC Barcelone. Enfin, la tendance météo, une journée très ensoleillée dans l'ensemble avec des averses sur le sud-est. Température de 13 à 22 degrés cet après-midi.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nico Saliagas, en cette journée internationale du vivre ensemble en paix sous l'égide de l'ONU, vous recevez le philosophe et président de Fraternité Générale, un mouvement créé après les attentats pour promouvoir la fraternité à travers des actions culturelles, pédagogiques et citoyennes partout en France.
Bonjour Abdennour Bidar.
Bonjour Nico Saliagas.
Dans le baromètre annuel Les Français et la Fraternité dévoilé ce matin, 80% des sondés jugent que la diversité est une bonne chose, mais vous soulignez qu'il y a un fossé entre les paroles et les actes.
Oui, la diversité est jugée une bonne chose, mais encore faut-il se donner des moments, des occasions de se rencontrer et de partager. C'est justement pour ça qu'on a créé le mouvement Fraternité Générale, pour inviter les gens à se rencontrer davantage, par-delà toutes les frontières habituelles de différences sociales, d'origine, de couleur, de croyances, etc. Enfin, tout ce qui divise d'habitude notre société française, nous on s'est dit, ça suffit, il faut créer ce mouvement Fraternité Générale pour donner aux gens des opportunités de se parler davantage, d'aller davantage à la rencontre les uns des autres.
La fraternité, c'est le principe qui fait déjà partie de notre devise républicaine. La liberté et l'égalité, la fraternité, elle est inscrite sur le fronton de tous les bâtiments publics. Mais pourquoi lancer ce mouvement aujourd'hui? Il y a une urgence?
Parce que justement, les frontons, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, les belles déclarations théoriques, c'est formidable. Mais la fraternité, c'est quelque chose qui s'éprouve et c'est quelque chose qui se vit et c'est quelque chose qui se met en œuvre. Donc c'est pour ça que nous, on a demandé solennellement
au pouvoir politique.
D'instituer tous les ans une fête de la fraternité comme il y a déjà une fête de la musique. C'est-à-dire se donner un grand moment collectif dans lequel justement on va pouvoir prendre à bras le corps les problèmes de notre société, c'est-à-dire toute cette souffrance, d'une part des inégalités, d'autre part des solitudes, à la place de la solitude mettre du partage et à la place des inégalités mettre davantage de justice.
Ne pas être simplement dans les bons sentiments mais dans l'échange, la dialectique et la rencontre.
Non, parce que les frontons et les bons sentiments ça suffit pas et on voit bien tous cette souffrance de la société qu'on constate chaque matin. Il y a beaucoup d'indifférence, etc.
De peur ?
Alors il y a des peurs effectivement qui sont liées aux différences dans une société qui est devenue extrêmement diverse comme la nôtre, mais une fois qu'on a fait ce constat, il faut faire quelque chose, il faut agir. Nous, on a décidé de se mettre en mouvement et de mettre en valeur tous les engagés dans notre société qui travaillent déjà, comme je le dis souvent, à réparer ensemble le tissu déchiré du monde.
Donc il y a une réparation, mais pour autant, hier, on a vu une communion autour de l'hommage national rendu aux deux soldats d'élite tués au Burkina Faso. On a vu que tout le monde était ensemble, que le pays s'est arrêté dans ses divisions, dans ses névroses. Elle existe, la fraternité?
Alors, elle existe, mais l'objectif, c'est quoi? C'est que ces moments exceptionnels deviennent un peu notre pain quotidien. notre pain quotidien de fraternité, pardon de le dire d'une manière qui est peut-être un petit peu religieuse, mais le pain quotidien, c'est-à-dire ce qui nous nourrit tous les jours en créant là où on est, là où on travaille, là où on vit, dans son quartier, dans sa commune, ce que j'appelle des petits écosystèmes de fraternité.
Abdelhadour Bidar, votre mouvement s'adresse à tout le monde, sans distinction de religion, d'appartenance politique ou de catégorie sociale. Vous dites que la fraternité, c'est l'affaire de tous. Mais vous dites qu'il faut faire des fêtes, il faut qu'il y ait une rencontre. Mais concrètement, au quotidien, sur le terrain, quels sont les moyens dont vous disposez ?
Alors, dont nous disposons et dont disposent toutes les associations qui travaillent déjà. Par exemple, toutes les associations qui viennent en aide à ceux qui ont moins que d'autres. Ceux qui viennent en aide aux plus démunis, ceux qui viennent en aide aux personnes âgées qui sont trop souvent dans cette solitude dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi à travers des occasions qui sont des occasions festives. Des occasions festives, c'est-à-dire que nous, le mouvement Fraternité Générale, autour de cette journée qu'on veut être une journée de fête de la fraternité, nous organisons des événements. Alors je vais en citer deux. Il y a d'abord le grand dîner en couleur. Nous l'organisons demain soir, place de la République, et on a été suivi par 10 grandes villes en France. Venez comme vous êtes, venez partager un moment de convivialité, un moment dans lequel les couleurs, les croyances, les origines, les couleurs de peau, les cultures, on va pouvoir se brasser, se mélanger. Et rien de plus extraordinaire que de partager un repas. Et un repas gratuit en plus.
Donc ça c'est une rencontre, c'est une pause dans le quotidien, mais dans nos rythmes effrénés, ceux qui nous écoutent ce matin, ou moi-même en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire quand j'entends des propos antisémites, quand j'entends des propos islamophobes, quand j'entends des gens qui divisent, que ce soit dans les transports en public ou dans la rue, qui vous interpellent, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Comment on tend la main pour dire « Hey, on est tous pareils, on vit en France ».
Déjà, on prend une décision. La décision d'une responsabilité personnelle, c'est-à-dire on se crée des occasions et on se crée du temps. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment, au moins dans ma semaine, dans lequel je peux interrompre le flux effréné de mes activités quotidiennes pour me consacrer à quelque chose qui a du sens ?
Donc le voisin, celui qu'on ne connaît
mais
pas
c'est
trop,
des choses très
celui
simples.
Dont on se méfie
Exactement.
Un peu, c'est ça que vous voulez dire ?
Exactement. Le voisin auquel je n'ai jamais pris le temps de parler, nos auditeurs le savent sans doute, souvent on est dans un immeuble, souvent on est dans une zone pavillonnaire où on connaît à peine les gens qui vivent pourtant à proximité immédiate de nous. Alors, on ne va pas aller frapper à leur porte tous les jours, mais au moins une fois de temps en temps,
bonjour,
on fait un petit
déjà.
Geste. Ouais. On l'avait vu déjà avec la fête des voisins, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui, petit à petit, transforme notre quotidien. Mais en effet, cela implique une réflexion sur la façon dont nous vivons.
Bien sûr.
Dans une société qui est quand même un petit peu folle. C'est-à-dire, non seulement elle est très divisée, comme vous le dites et comme je l'ai dit également, mais elle va beaucoup trop vite. Et elle ne nous laisse pas le temps, justement, de prendre soin de la relation à l'autre. Et par rapport à ça, nous avons un impératif moral, un impératif social de ralentir pour justement prendre ces occasions que la vie telle qu'elle est actuellement ne nous donne pas spontanément.
Alors penser à l'autre, c'est très bien, faire preuve d'altruisme, c'est nécessaire, mais quand on a du mal à boucler ses fins de mois, quand on a des soucis, quand on se sent seul, et c'est le cas de beaucoup de Français, c'est pas un peu utopiste ?
Alors, tout seul, on ne peut rien faire. Mais c'est toujours pareil, on ne va pas inventer l'eau froide. L'union fait la force. C'est pour cela qu'en France, il y a des associations qui sont extrêmement nombreuses et qui vont aider ceux qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes à s'engager, à faire quelque chose qui est non seulement à leur service pour améliorer leur propre situation, mais aussi pour se consacrer un petit peu aux autres. Et nous, Fraternité Générale, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en visibilité, de montrer tout ce qui se fait aujourd'hui près de chez vous, selon la formule consacrée, pour susciter de nouvelles vocations, donner de nouvelles espérances et aider ceux qui, par eux-mêmes, se sentent, et c'est souvent on a ce sentiment dans notre société, impuissants, découragés, et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, savoir que, non pas loin de chez soi, mais à côté de chez soi, il y a des gens qui se sont déjà engagés et avec eux, peut-être, on peut trouver davantage de capacité de résistance à une société qui va trop vite, qui est trop centrée sur l'individualisme, le chacun chez soi, le chacun pour soi.
Merci d'avoir été avec nous, Abdelhadour Bidar, et je rappelle que vous êtes philosophe et le président de ce mouvement Fraternité Générale, et que demain soir, vous organisez des dîners en couleur dans une dizaine de villes en France. Vous avez parlé de la place de la République, mais il y aura aussi Lyon, Carcassonne, Aix-en-Provence et d'autres rendez-vous. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et si vous souhaitez réagir, nous dire ce que vous pensez de cette journée de la fraternité, écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre cette information Europe 1. Le visage d'Emmanuel Macron va apparaître sur des affiches de campagne pour les européennes. Les détails dès le début du journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, une mère et son fils diplômés de l'université le même jour. Ça existe. Et c'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. À tout de suite.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Avec Jean-Philippe Ballas, ce matin, une maman et son fils, tout simplement.
Et c'est une journée importante pour Sharonda Wilson. Dans quelques heures, cette mère de famille sera officiellement diplômée des études de commerce dans une université du Michigan. Alors on a tous vu ces grandes cérémonies américaines, une seule fois dans une vie, avec les discours, les chapeaux qui volent. Oui. Moment important, émouvant. Sauf que Sharonda Wilson n'ira pas. Non, parce que le même jour, au même moment, dans une autre université, son fils, Stéphane, sera lui aussi diplômé section musique et théâtre. Évidemment, Sharonda ne raterait ça pour rien au monde, alors tant pis. Tant pis pour sa propre cérémonie, tant pis pour les chapeaux qui volent. C'est pas de chance, c'est comme ça. Et nous voici donc au moment solennel, dans cette grande salle de conférence où son grand garçon se présente devant l'assistance et le président de l'université. Président qui, à la surprise générale, appelle la mère de Stéphane à se lever, elle aussi, à les rejoindre près de la scène. La mère et le fils côte à côte, le président prend la parole.
J'ai passé un coup de fil aujourd'hui lorsque j'ai appris cette situation. Je vous demande votre attention. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Michigan, j'ai l'honneur de vous remettre, Sharonda Wilson, le diplôme que vous méritez.
Magnifique. Ouais, et là, les amis, c'est toute une salle qui se lève. Oui, quelqu'un a donc vendu la mèche. Sharonda Wilson est bouche bée. Son fils est en larmes. Les voici tous les deux enlacés, diplômés en même temps. Ma mère est une belle personne, courageuse, bienveillante. Là, c'est Stéphane qui parle. Partagez ce moment avec elle. Après toutes ces années d'études, toutes ces années à se serrer les coudes, c'était le plus beau des cadeaux. Bah vous savez quoi, je regardais encore les images ce matin et on est sincèrement très, très heureux pour la famille Wilson.
Jean-Philippe Ballas, l'homme qui a l'art de raconter les petites histoires avec autant d'intensité et de simplicité qu'on ne garde que l'essentiel, l'humanité. Merci beaucoup Jean-Philippe et à demain.
À suivre le journal de David Decan, tout de suite, la météo, Laurent Cabrol, Nikos.
Alors, Lolo Cabrol.
Eh ben, il était une fois.
Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui?
Une météo.
Vous voulez nous raconter une histoire?
Très ensoleillé.
Mais en fait, c'est pas intéressant quand tout va bien pour vous.
Non, mais.
Faut qu'il y ait du grabuge.
C'est vrai que. Mais je suis un peu inquiet quand même pour la fin de semaine. Ah. Pour tous ceux d'entre vous, chers amis qui habitent la moitié sud de la France. Parce que là, ça risque d'être assez mouvementé, assez orage. Agité. Oui. Il y a pas mal d'orages en perspective. Et je dois dire que ce sera probablement samedi, dimanche. Et nous aurons là un sale temps sur les régions du sud qui devrait remonter pratiquement jusqu'à la Loire. Donc il n'est pas exclu. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais que la région les régions de la moitié nord soient aussi concernées par ces orages. En tout cas, le beau temps, c'est fini demain soir. Hein. Alors aujourd'hui, on va en profiter.
Profitez-en.
Demain, on va en profiter aussi, parce qu'il fera beau avec quelques passages nuageux. Et puis à partir de vendredi, ça change. Nous changeons de système. Une dépression arrive. Enfin, moi, je vous passe les détails, ça ne sert à rien. Tout simplement pour vous dire que les orages arriveront et que samedi, dimanche, lundi, mardi seront des journées qui seront dans l'ensemble assez désagréables. Mais quand même, il fera relativement doux.
Merci beaucoup. Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi matin. Très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le visage d'Emmanuel Macron, bientôt de retour sur des affiches de campagne. Placardage sauvage ce week-end organisé par La République En Marche. L'image du président serait-elle plus efficace pour mobiliser que celle de Nathalie Loiseau? Information Europe 1 dès le début de ce journal. Europe 1 à votre service aujourd'hui. On vous aide à remplir votre déclaration de revenus. Les spécialistes de la rédaction et des experts comptables répondent à vos questions toute la journée. Et puis le procès Balkany, c'est une plongée vertigineuse dans le train de vie du couple. Compte rendu d'audience dans ce journal.
À 8h12 à Cuba, le régime est accusé d'esclavagisme. Vous comprendrez pourquoi avec Vincent Herouette. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.
Europe 1.
Information Europe 1, vous allez voir apparaître ce week-end des affiches avec le visage d'un certain Emmanuel Macron. À la manœuvre, le parti du président, La République En Marche. Avec nous, Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 qui a déniché cette information. L'objectif, c'est de mobiliser pour les européennes du 26 mai. Et pour cela, l'image du chef de l'État est peut-être, Jean-Rémy, plus efficace que celle de la tête de liste?
Oui, sur cette affiche, Emmanuel Macron, seul, plus aucune trace de la tête de liste Nathalie Loiseau ni de ses colistiers, le président et un slogan « En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance ». Une affiche dite « sauvage », elle ne sera pas sur les panneaux électoraux officiels, mais placardée un peu partout dans le pays par des militants. 60 000 exemplaires sont prévus. L'enjeu pour LREM, c'est de reconnecter dans l'esprit des électeurs Emmanuel Macron, La République En Marche et cette liste Renaissance qui agrège aussi Agir, le Modem et les radicaux. Il y a urgence car le constat est amer au siège du mouvement. Les électeurs d'En Marche ne sont pas assez mobilisés. Il faut retrouver le socle du premier tour de la présidentielle, tambourine un membre de la direction. Cette affiche, c'est l'une des étapes de l'investissement du président dans la campagne. Pour l'heure, aucun meeting n'est calé, un déplacement est envisagé. Mais comme le dit un proche du président, les choses se décideront au jour le jour. Tout dépendra de la capacité de la liste à remonter dans les sondages.
Information signée Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Merci à vous Jean-Rémy. Incarne-t-il cette proximité supposée entre populistes d'extrême gauche et d'extrême droite? En tout cas, Andrea Cottarac, jusqu'ici élu de la France insoumise, a annoncé qu'il allait voter Rassemblement national aux européennes. Il a précisé qu'il se démettait de son mandat d'élu régional. De son côté, la France insoumise a prononcé son exclusion immédiate.
Comme chaque année, Europe 1 vous vient en aide dans cette période difficile.
Oui, cette période, c'est celle de la déclaration de revenus. Vous pouvez nous poser vos questions jusqu'à 18h au 39-21. 13 experts comptables sont mobilisés pour vous répondre. Et dans nos éditions, nos spécialistes vous éclairent toute la journée. Par exemple, la fameuse année blanche en 2018 avec le passage au prélèvement à la source. Attention, attention, il y a une subtilité. Vous devez déclarer les revenus exceptionnels. Explication Anne-Laure Jumet.
Des cases supplémentaires font en effet leur apparition cette année sur la déclaration de revenus et seulement cette année. 1AX pour les salariés et 1AD pour les retraités. C'est là que vous allez devoir déclarer les revenus exceptionnels perçus en 2018 et c'est à vous de les inscrire dans ces cases qui ne sont pas pré-remplies. Et il va falloir faire le tri. La prime de Noël, ça n'est pas un revenu exceptionnel car ça intervient tous les ans. Idem pour les heures supplémentaires ou le 13e mois. En revanche, se classe dans cette catégorie la prime inattendue qui vient récompenser de bons résultats, les indemnités de rupture de contrat, une prime de départ à la retraite ou encore des pensions de retraite versées en capital. Par exemple, vous êtes salarié et vous avez perçu l'an dernier 32 000 euros de revenus, dont 1 000 de revenus exceptionnels. Eh bien, vous inscrivez 1 000 dans la case prévue à cet effet. Ces 1 000-là seront taxés et vous laissez le montant pré-rempli inchangé, 32 000 euros donc. Pour vous y retrouver, vous pouvez rechercher « année blanche » sur le site impots.gouv.fr. Vous pouvez également bien sûr demander à votre centre des impôts et la facture, elle, sera connue au moment de l'avis d'imposition et devra donc être réglée en septembre.
Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Alors attention, si vous utilisez la déclaration papier, vous avez jusqu'à demain minuit, le cachet de la poste faisant foi. Si c'est sur Internet, vous avez selon les zones jusqu'au 21, 28 mai ou 4 juin pour remplir votre déclaration de revenus.
L'entreprise Monsanto est devenue le boulet de Bayer.
Oui, depuis que le groupe agrochimique allemand a racheté le producteur du désherbant Roundup, son action en bourse s'est effondrée. Il y a l'affaire du fichage, mais surtout les procès aux États-Unis avec hier cette condamnation, nous vous en parlions, 2 milliards de dollars de dommages à payer à un couple atteint d'un cancer. L'image de Bayer est profondément écornée. Au sein du groupe, la parole des salariés se libère. On conteste ouvertement le choix d'avoir racheté Monsanto. Enquête signée Jihan Bergaoui.
Depuis l'avalanche de procédures, le titre Bayer dégringole en bourse. Près d'un an après le rachat de Monsanto, le groupe allemand a perdu quasiment la moitié de sa valeur boursière. S'il a tenté de se défaire de l'image négative de Monsanto en abandonnant son nom, cela n'a rien changé, explique cet employé d'une entreprise française qui regrette le rachat.
Tout le monde pense que c'est une mauvaise chose, que Monsanto a un petit peu se rattraper son image de marque par rapport à Bayer. Mais à l'intérieur, il y a une vraie inquiétude au niveau des gens. Quoi. Quand on voit que la bourse elle chute vraiment, on pense que tout peut arriver. On peut être racheté par n'importe qui, à bas prix. Monsanto, c'est un géant. Après, je ne dis pas que Monsanto, c'est une belle image. Hein. Mais Bayer, on avait une belle image. Il y avait des vraies valeurs. Je pense que là, on a forcément que le rachat de Monsanto, on est en train de tout détruire.
Le groupe allemand s'apprête à faire face à une nouvelle série de procédures contre le Roundup. Plus de 13 400 affaires sont en cours, rien qu'aux États-Unis.
Jihan Bergaoui pour Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le procès Balkany. La cour se plonge dans le train de vie du couple. A tout de suite, reportage.
Les 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et le procès de Patrick et Isabelle Balkany.
Vous le savez, les deux élus sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. Plongée vertigineuse dans le train de vie du couple hier à l'audience, Salomé Legrand.
Quand Patrick Balkany s'avance à la barre, le président achève 2 heures d'une présentation inhabituellement longue et détaillée des faits, truffée de précisions sur chaque virement d'un paradis fiscal à l'autre, mais surtout sur le quotidien des Balkany, un couple que leurs employés de maison observent brasser des liasses de billets et dont ils disent ils jettent l'argent par les fenêtres. 2000 euros de courses hebdomadaires au supermarché pour madame, trop pour tout ramener dans sa voiture. Elle joue aussi chaque semaine à l'euro million. Elle, justement, a écrit 2 lettres au juge d'instruction en 2016 et en 2017. Au milieu du prétoire, Patrick Balkany scande ces mots prémonitoires. Elle y dénonce le fait d'être livrée à l'opprobre violente des réseaux sociaux et s'y plaint, entre autres, d'un contrôle judiciaire qui la prive de voir ses petits-enfants à l'étranger. Par 2 fois, elle évoque la tentation de tirer sa révérence de manière irréversible. Après un léger flottement, le président demande au prévenu s'il compte garder le silence lors de l'interrogatoire cet après-midi. Sûrement pas, tonne Patrick Balkany.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Rebondissement dans l'affaire de l'anesthésiste de Besançon.
Frédéric Péchier, mis en examen depuis 2 ans, était suspecté jusqu'à présent de 7 empoisonnements, dont 2 mortels. Eh bien, il est à nouveau en garde à vue depuis hier matin. Les enquêteurs pensent qu'il serait responsable de 35 cas supplémentaires, dont une douzaine ont entraîné la mort. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, nie tout en bloc au micro d'Arthur Mbaché.
Le docteur Péchier a toujours dit la même chose, il n'a jamais été impliqué de quelque façon que ce soit dans un acte criminel, dans un acte d'empoisonnement. C'est sa position depuis le départ, c'est toujours sa position à l'heure où je vous parle, et je suis profondément persuadé, comme ses avocats, que le docteur Péchier gardera bien évidemment cette même défense. Quand on voit l'absence d'épaisseur, l'absence de preuves qu'il y a dans le dossier d'instruction, oser qualifier le docteur Péchier de serial killer, c'est irresponsable.
Maître Randall Schwerdorfer, l'avocat de l'anesthésiste de Besançon, avec Arthur Mbaché pour Europe 1.
Un mot de foot, Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid, ça y est, il l'a quitté après 5 saisons.
Et oui, le champion du monde français l'a annoncé dans un message vidéo. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour David.
Du service des sports d'Europe 1. Je vais vous demander, Jérôme, de vous mouiller un peu pour une fois. Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid pour aller où ? À Barcelone, non ?
Pas la seule piste, mais la plus chaude, oui, c'est vrai. C'est celle qui l'envoie aux côtés de Lionel Messi. Attendez, vous allez entendre. On parle d'un contrat de 5 saisons à Barcelone. Griezmann serait même prêt à baisser son salaire. Alors on s'inquiète toutefois pas trop pour lui. 17 millions nets par an contre 21 à l'Atlético.
J'ai pris la décision d'irme, de tener otros desafíos.
Alors, tout en sobriété devant un mur blanc, Griezmann confie dans sa vidéo « J'ai besoin de relever d'autres défis ». J'enlève la langue de bois, ça veut dire « Je veux gagner la Ligue des Champions ». En 5 saisons à l'Atlético, il a remporté la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa, mais il ambitionne la grande à 28 ans. Ce serait possible à Barcelone, seulement voilà, en fin de saison dernière, il avait finalement refusé de rejoindre ce club malgré des pourparlers avancés. Conséquence. Voilà comment Griezmann a été accueilli par le public catalan le mois dernier lors d'un match au Camp Nou Barça-Atlético. Ces supporters-là, il faudra les conquérir. Cette année, ce serait oui pour Barcelone, sauf si, Nikos, vous avez raison. Regardez par exemple la une du Mundo Deportivo ce matin. Griezmann s'en va au Barça ou au PSG, le quotidien catalan, on croit savoir
elle pèserait
que Paris est entré dans la danse.
Bon, bravo à vous Jérôme Lacroix, il n'y avait presque aucun conditionnel dans votre intervention.
Ouais. Et vous lisez dans la langue le journal, oui, j'imagine. Ouais. Vous parlez le catalan aussi. Ouais,
moyen.
Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1, merci à vous.
C'était le journal de David Doucan. Et Europe 1 vous aide à remplir votre déclaration en partenariat avec l'Ordre des experts comptables dès maintenant. Et jusqu'à 18h, vous pouvez appeler le 3921, 50 centimes la minute. Vous appelez et des experts comptables répondent à toutes vos questions.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet comme chaque matin, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Cuba accusé d'esclavagisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une plainte, en tous les cas, a été déposée à la Cour pénale internationale contre le régime cubain car il exploite abusivement les médecins qui l'envoie dans le monde entier ?
Oui, alors c'est là qu'on voit que la guerre froide est repartie de plus belle. D'ailleurs, le premier maire, Raoul Castro, a été décoré de l'ordre de Lénine. Et puis le 2 mai, Donald Trump a activé la loi Helms-Burton qui renforce considérablement l'embargo, et c'est l'économie de l'île qu'il faut torpiller. Alors cette semaine, des défenseurs des droits de l'homme, appuyés par les dissidents et l'Organisation des États américains, s'attaquent à un symbole qu'il faut discréditer, les médecins envoyés dans les pays frères. Ils sont des dizaines de milliers au Venezuela, pas trop dépaysés puisqu'ils y ont retrouvé les pénuries, le rationnement et puis les patients qui n'espèrent rien sinon s'enfuir. Ils étaient en Haïti après le séisme, en Sierra Leone et au Liberia frappés par le virus Ebola. Mm-hmm. Des centaines de milliers ont sillonné le monde depuis les années 60. Le médecin cubain, c'est comme le poster du Che que les vieux 68ards comme vous accrochent dans leur chambre. Une icône, la preuve que la révolution ne dévore pas ses enfants, qu'elle les éduque, que le socialisme scientifique, ça marche. Sauf que le bon docteur n'a pas le choix. Le médecin sans frontières est un médecin sans aucun droit. Il est enrôlé de force pour 3 ans minimum. Sa famille reste otage à Cuba. S'il abandonne la mission en cours de route, ça vaut 8 ans de prison. Sur place, les relations avec l'autochtone sont interdites. La sécurité d'État le surveille étroitement. Un couvre-feu lui est imposé. C'est un esclave en blouse blanche. La Havane confisque entre 70 et 90% de son salaire. Par exemple, le Brésil de Lula payait 4200 dollars par mois quand même, chaque médecin dans les zones rurales ou les favelas. L'argent transitait par l'Organisation panaméricaine de la santé qui prélevait 5% et le régime en confisquait 85%.
Ça veut dire qu'il restait 10% pour le médecin.
Oui, qui récupérait en fin de mission seulement. Ceux qui sont envoyés en Afrique ne touche que 400 pesos à leur retour, soit à peu près 15 ou 16 dollars par mois. Le nouveau président brésilien a été le premier à dénoncer le travail esclave. Jair Bolsonaro a renvoyé les 10 000 Cubains chez eux. Ils n'ont pas été remplacés. Tant pis pour les malades. La guerre froide fait aussi des victimes. L'enjeu est considérable, en fait, parce que ce travail forcé constitue le principal revenu de Cuba. Loin devant le tourisme, le rhum, les cigares, 50 000 Cubains étrangers ont rapporté 8 milliards de dollars en 2016, par exemple. 10 milliards les années précédentes. Évidemment, ils sont nombreux à faire le mur. Entre 1000 et 2000 ont décidé, par exemple, de rester au Brésil, sauf que leurs diplômes n'y sont plus reconnus. Mais ils préfèrent encore la pauvreté en exil à l'esclavage au service du parti.
Il y a quelques instants, Vincent Avouette, vous supputiez et vous disiez que j'avais dans ma chambre, quand j'étais gamin, des photos du Che, la fameuse photo
poster,
de Corda.
Un poster.
Ben non, moi, c'était Bebel. Et Goldorak.
Et voilà.
Voilà, je voulais quand même préciser. Merci infiniment. Vincent Hervouette pour l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Vous aviez des posters, Audrey Caspar-Barra, dans votre chambre ?
Oui, oui, mais je ne vous dirai pas lesquels.
Oh, c'est dommage.
Bon, bon, parlez-moi de votre invité, au moins.
Oui, mon invité. Mais je ne l'avais pas en poster, mais ce sera... Il est le président de l'Assemblée nationale et également celui des soutiens d'Emmanuel Macron. Alors, lui aussi, il est appelé à la rescousse pour sauver le soldat Loiseau à J-11 des Européennes. Richard Ferrand sera mon invité.
Bon, c'était quoi comme poster ?
Allez. Ah, je vous le dirai tout à l'heure. Mais hors antenne.
Excellente matinée à tous sur Europe 1, il est 8h16. 8h18, Nikos Aliagas.
Le président de l'Assemblée nationale et député La République en marche du Finistère, Richard Ferrand, et votre invité Audrey Caspar-Barra.
Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
À 11 jours des Européennes, la liste de Nathalie Loiseau est à la peine dans les sondages. Alors le
Comment
président...
ça à la peine ? Elle est en tête.
Ah, dites donc.
Elle est en tête.
Pas du tout. Elle est derrière le Rassemblement National.
Non,
donc, pour bien des instituts
de sondage.
Attendez, je vous pose ma question.
Je vous en prie.
Alors, le président est obligé de revenir sur le devant de la scène. Emmanuel Macron va apparaître sur une affiche diffusée ce week-end à 60 000 exemplaires un peu partout dans le pays. C'est une information Europe 1 que vous nous confirmez ?
Moi, je ne m'occupe pas de la campagne des Européennes. Mais ce qui est certain, c'est que le président de la République est un militant engagé pour l'Europe. Souvenez-vous que pendant toute la campagne présidentielle, il était le seul candidat
à porter
l'idéal européen. Donc,
c'est pour une liste,
que
ça.
Le président de la République apparaisse comme un engagé pour porter ce qu'il a dit dans son discours de la Sorbonne, dans son discours d'Athènes, et l'idée qu'il nous faut plus d'Europe pour être plus fort, pour pas faire en sorte que le monde soit finalement géré par des grands ensembles comme la Chine et les États-Unis, c'est sa conviction. Et son devoir.
Mais
alors,
est-ce que
je
vous
ne sais pas.
Cette affiche
non,
je avec
ne confirme
la tête
pas parce que je n'en
Macron.
Sais rien. Mais ce que je vous dis, c'est que si cette affiche sort, j'irai la coller. Avec grand plaisir.
Ah oui.
Partout dans le Finistère. Voilà.
Sur cette affiche, le président de la République et un slogan, En marche pour l'Europe. Plus aucune trace de la tête
de liste, Nathalie Loiseau. Vous vous êtes trompée à tel point qu'il faille enlever la photo de votre tête de liste ?
Non, mais il faut arrêter le Loiseau bashing, là. Il y a une espèce de mode, vous voyez. Quand Madame Loiseau est venue en Bretagne faire campagne avec nous, on a dit, ah voilà, tout le monde est à la rescousse, ceci. Mais c'est absolument pas ça.
Mais nous faisons enlever équipe. La tête de Nathalie Loiseau. Arrêtons. Pour mettre celle du président,
mais le
c'est
président
bien
de la République,
hein.
N'est pas tête de liste. Il ne va quand même pas figurer, écoutez-moi, il ne va pas figurer à côté d'une tête de liste. Il rappelle que lui, il s'engage pour l'Europe. De la même manière qu'il a souhaité mettre la France en marche, il souhaite mettre l'Europe en marche.
Et la République en marche pour l'Europe.
Et ça, c'était bien avant cette campagne électorale. Il l'a toujours porté, toujours défendu. Alors on ne va quand même pas reprocher au président de la République de dire aux Françaises et aux Français qu'il est en effet un grand militant européen. Et permettez-moi d'ailleurs de vous dire que beaucoup de ses prédécesseurs, voire tous, si ma mémoire est bonne, se sont également engagés sur un sujet qui est essentiel. Parce qu'au-delà de l'anecdote, la France n'est forte que dans une Europe forte. Et c'est le devoir du président de la République de le faire.
Tant qu'Emmanuel Macron menait la campagne en animant le grand débat Richard Ferrand, sa liste était en tête dans les sondages. Depuis que Nathalie Loiseau a pris le relais, le Rassemblement national est repassé devant. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur.
Moi, je vais vous le dire gentiment, mais je ne vous permets pas de dire que Madame Loiseau n'est pas à la hauteur. Alors, ce fut une ministre, laissez-moi vous dire, ce fut une ministre des Affaires européennes parfaitement apte et remarquable. Elle était donc la mieux placée pour conduire cette liste. Sur le terrain, vous n'avez qu'à venir voir un peu comment ça se passe. Elle tient des réunions publiques très très pertinentes où elle explique bien le sens de ce qu'elle porte, où elle explique comment fonctionne l'Europe. Quand nous sommes allés ensemble voir des agriculteurs, que l'on a parlé de la PAC, quand elle est allée voir des pêcheurs pour justement voir les conséquences du Brexit et comment on peut les contrer, les éviter, etc. Croyez-moi, c'est quelqu'un de tenace, de compétent et dont on a besoin. Parce que pendant bien longtemps, les partis politiques ont envoyé à Bruxelles des branquignoles. C'est-à-dire ceux qui perdaient les élections en France, on les recasait. Nous avons au contraire pris les meilleurs d'entre nous pour porter nos idées au plan européen. Et Madame Loiseau en fait partie. Donc arrêtons cette petite musique qui ne repose sur rien, si ce n'est sur le panurgisme médiatique qui consiste à dire
sur
voilà, Madame Loiseau, ceci,
cela.
Arrêtons, elle est excellente.
Quant
au sondage, d'abord, je m'en moque, mais au-delà de ça, les sondages ne disent pas du tout que cette liste serait en difficulté. Donc, oublions les sondages, regardons le terrain, et je veux bien venir vous revoir le 27 au matin.
Venez,
et là, vous verrez que les sondages, une fois de plus, se seront plantés.
La photo du président de la République, plutôt que celle de la tête de liste, ça confirme que les Européennes sont bien un référendum pour ou contre Macron ?
Mais non, jamais des élections européennes n'ont été un référendum sur le président de la République. Il faut arrêter de tout mélanger.
Mais le président affirme, Richard Ferrand, qu'il mettra toute son énergie pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête.
Donc, évidemment.
Si le Rassemblement National arrive en tête, ce sera un désaveu sans appel.
Un désaveu sans appel, mais comment vous y allez, vous ? Pas du tout. Je vous signale que quand François Hollande était président de la République, eh bien, le Front National était devenu, avait fait 25 ou 26, je ne sais plus. Si vous remontez dans le temps, depuis 99 jusqu'à nos jours, et à l'exception de 2009, eh bien, ce sont des élections pendant lesquelles le Front National a obtenu de bons chiffres. Nous, justement, nous faisons en sorte que le mouvement qui soutient le président de la République soit en tête. Donc, regardez plutôt que ce qui est singulier, c'est que le mouvement qui soutient le président de la République fasse plutôt la course en tête, là où par le passé, il a toujours fait à l'arrière.
Ça dépend des instituts de sondage. Le Rassemblement
national,
Richard
Ferrand. C'est la vérité historique. Reprenez les résultats depuis 99.
Le Rassemblement national qui accueille un proche de Jean-Luc Mélenchon, un élu du Rhône, Andrea Cotarac, décide de soutenir le parti de Marine Le Pen à 11 jours des Européennes. Hier pourtant, ici même, Manon Aubry, tête de liste, la France Insoumise assurait qu'il n'y avait pas de convergence entre la France Insoumise et le Rassemblement national.
Eh bien, elle s'est trompée. Puisque manifestement, il y a un certain nombre de convergences qui font qu'un des responsables de ce parti puisse du jour au lendemain se sentir bien dans l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a une porosité que nous observons et qui là s'incarne. Mais enfin, l'essentiel, ce n'est pas de faire la chronique des naufrages éthiques et idéologiques des uns et des autres, c'est de dire à ceux qui nous écoutent que l'Europe, c'est important, que le mouvement européen, il est porté et incarné par Nathalie Loiseau et sa liste Renaissance, et quant aux autres, ils font ce qu'ils ont à faire.
Richard Ferrand, lors du débat du second tour en 2017, Emmanuel Macron avait remporté une victoire sans appel contre Marine Le Pen, qu'on disait finie. Deux ans plus tard, Marine Le Pen est en passe de remporter les élections. Ce succès, ce serait votre échec à tous ?
Non. D'abord, Marine Le Pen ne va pas, comme vous dites, emporter ces élections. D'abord parce qu'elle n'est pas candidate.
Et si elle les remportait ?
Non, d'abord parce qu'elle n'est pas candidate.
Ouais,
et ensuite, n'oublions rien, malgré ce débat absolument désastreux, vous avez raison de le dire, au cours duquel nous avons tous pu mesurer l'incompétence de celle qui voulait être présidente de la République. Il n'en reste pas moins qu'un Français sur trois a tout de même voté pour cette candidate. Donc vous croyez que par enchantement, ceux qui croient que les fausses solutions qu'elle propose seraient bonnes, vous croyez qu'ils ont disparu ? Bien sûr que non. C'est bien pour ça qu'il faut continuer à expliquer, à travailler et dire qu'est-ce qu'on veut faire pour notre pays, pour l'Europe et pourquoi c'est ce qui est utile à l'ensemble de notre peuple. Donc c'est un travail de tous les jours qui est à faire.
Merci Richard Ferrand.
Merci à vous.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Richard Ferrand, j'ai un scoop pour vous. Nicolas Canteloup vous observe, il scanne votre voix.
Ouais.
Il la travaille.
Oui, mais je trouve que pour l'instant, il ne la fait pas très très bien.
Mais dites pas ça.
Mais...
dites pas ça, il va se venger tout à l'heure.
Ah, je sais bien qu'il va se venger.
Et c'est maintenant.
Je sais bien, monsieur Aliagas.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Nicolas Canteloup n'est pas loin, il arrive. 8h30, la revue de presse David Abicard. Et à 8h35, le journal du Festival de Cannes avec Mathieu Charrier en direct de la Croisette.
Une excellente matinée sur Europe 1. Il est 8h26. À suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo avec Laurent Cabrol.
Car sur Europe 1, Laurent Cabrol fait la pluie et le beau temps. J'ai retrouvé une campagne publicitaire, beau gosse, vous tenez un parapluie, derrière il y a un soleil, le regard du latino, les dents blanches, la classe quoi.
1983, ouais. Bah oui. Donc,
on va la poster sur les réseaux sociaux.
Plus on vieillit, moins on se trompe, je crois. Je vais essayer de ne pas me tromper. Ce qu'il faut se dire à nos amis, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, nous rattrapons notre retard hydrique. Les pluies sont souvent fortes, notamment sur l'Île-de-France et sur le centre. Et bientôt, je vous en parlais tout à l'heure, bientôt il va beaucoup pleuvoir sur les régions de la moitié sud. Sur la moitié sud, d'ailleurs, ça s'arrange bien. Depuis 10 jours, la sécheresse de surface recule. D'ailleurs, ceux qui sont agriculteurs voient les champs, voient les prairies surtout devenir très grasses et les animaux se régalent. Alors, en début d'année, nous avons eu un temps très sec. Là, depuis pratiquement 3 semaines, on a l'impression que la nature se rattrape et rattrape son équilibre. Pourvu que ça dure, en tout cas, il faut bien se mettre à l'esprit que nous allons vivre samedi, dimanche, lundi et mardi prochain des journées qui seront dans l'ensemble assez désagréables pour ceux d'entre vous qui ont envie d'un peu de détente au soleil. Maintenant, si je dois me projeter encore vers, disons, l'été, le temps de l'été, parce qu'il commence à apparaître déjà des prévisions pour le temps de l'été, eh bien, il semble qu'il n'y ait pas une sécheresse exceptionnelle pour l'été qui vient.
Bon,
pour l'instant, ce n'est qu'une impression.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure pour un autre point.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 15 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Stupéfaction et vive inquiétude chez Ascoval. British Steel, le repreneur de l'usine de Saint-Saulve dans le Nord, aurait de graves problèmes financiers. Il serait même au bord de la faillite selon la presse britannique. Parcoursup, plus que quelques heures avant d'être fixé, les 900 000 inscrits sur la plateforme d'entrée dans l'enseignement supérieur vont découvrir à 19h les réponses à leurs vœux d'orientation. 110 700 000 dollars, comment une toile de Claude Monet acquise aux enchères cette nuit chez Sotheby's à New York est devenue un événement. Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid, c'est fini. Le joueur a évolué depuis 5 ans. J'ai pris la décision de partir, de voir d'autres choses et de relever d'autres défis, a expliqué l'attaquant qui avait déjà été l'année dernière à deux doigts de partir pour le FC Barcelone.
Europe 1.
Et il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abicard, Nikos.
Et David, à la une de la presse ce matin, des émotions sur des petits écrans et des grands écrans.
Le grand écran, évidemment, c'est au Festival de Cannes, mais ce soir, et vous le disiez à l'instant, à 19h précise, près de 900 000 futurs bacheliers assisteront à une séance particulière, une séance à suspense, ce que le Parisien aujourd'hui en France appelle le grand soir de Parcoursup. Ce n'est pas un film, mais l'affichage sur vos écrans d'ordinateur des résultats de la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur. Ce soir, les lycéens découvriront un mur de réponses à leur choix, négatives ou en attente, explique le quotidien. quotidien. Ce soir, face à l'écran, il y aura de l'angoisse, de la joie et des projections sur l'avenir. Mais le film ne se terminera pas à 19h, il commencera. Les élèves auront 5 jours pour valider le scénario universitaire qu'on leur propose. Et pour y voir plus clair, ils pourront chatter dès 18h avec les journalistes du Monde Campus qui répondront à leurs questions. L'an dernier, rappelle Le Parisien aujourd'hui en France, à la même époque, 810 000 candidats n'avaient pas obtenu leur vœu, mais fin octobre, 94% des bacheliers avaient au moins récolté une proposition. Parcoursup, c'est un peu comme le cinéma au Festival de Cannes. Mmh. Ça commence mal, mais généralement, ça finit mieux.
À la une de la presse, des écrans ce matin, on trouve également Facebook.
Et ce qu'on appelle déjà l'appel de Christchurch. Aujourd'hui à Paris, Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern lanceront une mobilisation mondiale contre la violence en ligne. Cette violence qui sévit aussi sur les écrans. Cet appel intervient 2 mois après la diffusion en ligne sur Facebook, puis YouTube, de l'attaque contre des mosquées néo-zélandaises et la diffusion en direct du massacre de 51 musulmans. Facebook fait donc la une de l'Express ce matin et en couverture, un bonbon enveloppé dans un drapeau américain et qui cache un œil qui vous regarde. Le poison Facebook, titre l'Express, qui égrène la longue litanie des reproches adressés au réseau social qui compte 2,5 milliards de copains. Tripatouillage de données personnelles, outils de propagande politique, usine à mensonges et fausses informations. Facebook est aussi un vrai danger pour les européennes et l'élection, c'est la une de la Tribune, qui explique et décrypte les stratégies d'influence qui pullulent sur le réseau au moment du scrutin européen. Alors Mark Zuckerberg promet des changements, présente des excuses à chaque dérapage de la plateforme, mais comment réformer une machine qui a fait de lui un milliardaire de 35 ans à la tête d'un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars ? Le Figaro, en revanche, propose lui ce matin un autre visage de la technologie.
En tout cas, les grands acteurs de la technologie, David Abiker, s'engagent au service du bien commun.
Le titre se déploie sur une double page avec la seconde édition du sommet Tech for Good, autrement dit la technologie au service du bien. Plein de bonnes intentions à la veille du démarrage de Vivatech, le grand rassemblement des entreprises technologiques françaises à Paris. L'occasion pour la nouvelle économie de prouver son souci du bien commun, du progrès social et de l'environnement. Google, IBM, Orange, Accenture défendront leur engagement au service de l'emploi, de l'éducation et de la formation. Uber, son partenariat avec les transports parisiens. SAP, ses efforts en faveur de la parité. Dans ses pages santé, le Figaro toujours met en garde en s'appuyant sur un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire l'ANSES, sur les effets néfastes de la lumière bleue issue des éclairages LED sur la rétine. Tandis que le site The Conversation dresse la liste des effets néfastes des écrans sur notre santé. Grignotage et obésité, sédentarité, malbouffe, insomnie et troubles du sommeil, ou encore troubles de la concentration. Bref, les ravages des écrans sont une invitation à regarder sur vos écrans, encore eux, désolé, la vidéo que je vais poster dans un instant sur Twitter. La campagne Oh My Dog a été conçue par la Fédération française de cardiologie et la Société protectrice des animaux, explique le site Wamiz, et elle montre qu'un chien réduit de 36% vos risques d'accidents cardiovasculaires. Mm-hmm. Si vous ajoutez à cela, Nikos, qu'un chien donne l'alerte presque aussi bien qu'un smartphone, que si on le caresse, il réagit quasiment comme l'écran de votre tablette, que bien dressé, il donne les nouvelles en vous apportant le journal, qu'un chien crée des liens avec les autres presque aussi bien que Facebook, et qu'en promenade, il peut vous aider à draguer, comme dans les seins dalmatiens.
C'est pas mal.
Alors, il n'y a aucune raison de manquer les journées portes ouvertes de la SPA samedi et dimanche. Plus de chiens, moins d'écran, ça ferait un bon slogan.
Vite chien. Merci beaucoup, David Abiker. C'était la revue de presse sur Europe 1.
Il est 8h37, on part sur la croisette, rejoindre Mathieu Charrier qui suit pour nous, Nikos, le 72e Festival de Cannes.
Europe 1, le journal du festival.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Alors au sommaire ce matin.
Le grand retour de Jean Dujardin à Cannes, nous l'entendrons. La compétition, elle s'est ouverte hier soir avec un jury présidé par Iñárritu. Et puis les indiscrétions, Franck Dubosc va devoir passer 10 jours sans maman.
Nous déclarons...
Déclaramos...
Ouvert...
Abierto...
Le 72e Festival International du Film...
De Cannes.
C'est fait.
Vous venez d'entendre les voix de Charlotte Gainsbourg et de Javier Bardem. Ils ont donc ouvert hier le 72e Festival de Cannes.
Eh oui, cérémonie durant laquelle la chanteuse Angèle a rendu hommage à Agnès Varda en reprenant « Sans toi », extrait du film Cléo de 5 à 7.
Toutes portes ouvertes.
C'était juste avant la projection donc du premier film en compétition, The Dead Don't Die. Le jury lui s'est mis au travail, présidé par le réalisateur mexicain Iñárritu.
Je ne sais pas vraiment comment on va travailler, pour être honnête. Je n'ai jamais été président et je n'ai jamais vraiment contrôlé grand-chose, ni sur mes tournages, ni dans ma famille. On va être bousculé, secoué pendant les 10 prochains jours. Et je ne veux pas dire qu'on va juger les films, mais je préfère dire qu'ils vont nous imprégner, qu'on va réagir, échanger. C'est très excitant.
Voilà, au total, 21 films sont en lice pour la Palme d'Or, 5 français, dont Les Misérables de Ladjili, que l'on va découvrir aujourd'hui. Je vous en parle demain.
Alors ça, c'est la compétition officielle, mais ce soir s'ouvre également une sélection parallèle, ce qu'on appelle traditionnellement la quinzaine des réalisateurs.
Exactement, avec Le Dain, film de Quentin Dupieux, porté par Jean Dujardin, qui joue Georges. Il vient de tout plaquer, il a rassemblé ses économies pour acheter un blouson en daim.
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Voilà, il aime tellement son daim, pas banal, qu'il ne va pas supporter que d'autres aient des blousons différents. Il va donc se mettre à tuer au hasard des rencontres dans la rue.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de se barrer, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en daim et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Voilà, Le Dain en ouverture de la quinzaine ce soir et qui sortira en salle le 19 juin.
Bon, vous n'avez pas de blouson en daim, Mathieu, mais vous avez des indiscrétions. Hein.
Vous vous rappelez, Nikos, du film La Famille Bélier, plus de 7 millions de spectateurs en France. Eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir un remake en anglais, ça s'appellera Coda. Et puis Ludovic Bernard vient de démarrer le tournage de 10 jours sans maman, sa nouvelle comédie, dans laquelle Antoine va devoir gérer les 4 enfants car sa femme décide de partir prendre du temps pour elle. Ce père sera incarné par Franck Dubosc, ça promet.
Ça promet. Et on en parle de votre suite de 2000 mètres carrés au Martinez ?
Oula, si seulement.
Bon, c'est un bon cru alors pour l'instant.
Ouais, ça se passe très bien pour l'instant.
Merci Mathieu Charrier pour le Journal de Cannes. C'est tous les matins dans la matinale à 8h35.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans une poignée de secondes, 1001 voix. Un festival de vannes. Nicolas Canteloup est sans revue de presse avec Julie. À tout de suite.
Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Il est 8h40. Il est 8h42.
22, Vlad Canteloup avec Julie. La revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité.
Richard Ferrand, vous êtes président de l'Assemblée nationale et député du ministère LREM. Nathalie Loiseau, votre tête de liste est à la peine.
Comment ça est à la peine? Pas du tout, est en tête. Alors, mais arrêtez sur franchement, sur l'oiseau bashing, arrêtez sur le... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Franchement.
Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il va y avoir une affiche? Tellement votre candidate Nathalie Loiseau fait envie, elle est tellement chum qu'on a enlevé sa photo pour mettre celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette information est vraie?
Mais écoutez, je ne sais pas, moi je ne me préoccupe pas des affiches. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est légitime que Emmanuel Macron a été quand même la personne qui a porté les valeurs d'Europe, qui est légitime, qui a défendu les valeurs d'Europe. Donc je trouve que légitime, c'est vraiment normal qu'il soit. Alors je ne sais pas si cette affiche va exister, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, si elle sort, j'irai la coller, s'il le faut, je vais le faire avec la langue. Voilà. J'y crois tellement à Nathalie Loiseau, vous vous rendez compte, je suis président de l'Assemblée nationale, je vais finir colère d'affiche.
Le Rassemblement national est passé devant la tête de liste Nathalie Loiseau. Vous allez me dire qu'elle est nulle ou pas? Vous allez finir par le dire.
Non mais écoutez, arrêtez avec ce Loiseau machine, franchement. Elle est excellente, je vous le dis, Nathalie Loiseau est excellente, elle est compétente, elle connaît l'Europe, elle connaît tout, je ne sais pas de par cœur. Elle est tellement bonne, je peux vous dire, elle est tellement bonne qu'elle est allée voir des pêcheurs. Voilà, j'ai trouvé que ça. Bon. Non, mais vous allez voir, je reviendrai le 27 au matin pour vous montrer que j'avais raison. Hein, peut-être le 28 ou le 29. Enfin, d'ici la fin de l'année ou la fin du quinquennat. Bon, en tout cas, voilà. Quand loup, il ne colle pas des affiches, mais enfin, il faudrait que je colle pour travailler ma voix, parce que c'est pas terrible.
C'est effectivement ce qu'il a dit. Mais si, elle est terrible, la voix, elle est géniale.
Bravo, bravo,
géniale.
Bravo. À vous, Julie.
Merci, Audrey. Allez, on passe à vous, Nikos, pour le rappel du titre. Ouais,
elle est géniale, mon Nico. Ouais, les Fossil Run of the Morning. J'adore m'auto-flatter. Les Fossil Run of the Morning, mais qui est qui? Of the Morning of Today, c'est Europe One, Europe One, Europe 1, qui, comme chaque année, vous aide à remplir votre fiche de revenus. Pour les impôts, 13 experts comptables sont mobilisés, oui. Des chemisettes à carreaux, des lunettes rectangulaires, des chiffres et des calculettes. C'est un peu... C'est vrai Noël pour vous, Nicolas Barret?
Enfin oui, enfin, c'est super excitant. Tous mes amis sont là, je les connais tous, on va s'éclater, c'est génial. On va remplir des formulaires sur les revenus imposables des titres non cotés détenus dans les PEA en mangeant du céleri en barquette. Oh, c'est le kiff, c'est le kiff, c'est le kiff. La plus belle journée de l'année.
Bonne journée Nicolas Barret. Allez, on va faire un petit point sur les élections européennes avec notre spécialiste, Danny Cohn-Bendit. Bonjour.
Bonjour Thomas. Salut Zozo.
Alors, on en est où de la campagne de Nathalie Loiseau?
Ah ben écoute, là c'est terrible, c'est... Ben écoute, c'est mort pour la pauvre Nathalie, qu'est-ce que je te dis? Son principal opposant vient de sortir du bois, et là, ça fait beaucoup de mal, on va pas se mentir.
Mais attendez, non, c'est qui son principal opposant? C'est Marine Le Pen?
Ben non, la météo.
Ah, ben, la écoute, météo.
Ben ouvre les yeux, il fait un temps de rêve, c'est foutu, là. Ben déjà, quand il flotte et qu'il fait 6 degrés, elle n'intéresse personne, l'oiseau. Mais alors si en plus il fait beau... Non mais franchement, non mais Abiker, si t'as le choix entre un meeting de Nathalie Loiseau en sous-sol ou un rosé en terrasse, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est vite vu, ben ouais. Il a dit David Boucan, là. Il y a même... Oui, Doucan, pardon. Ouais, mais il parle tellement le matin que voilà. Alors écoute, il y a même plus sa photo sur les affiches. Ils ont préféré mettre Macron. Apathy aussi, il a dit. Elle est nulle en France, cette campagne.
Je suis d'accord, il se passe rien. Rien. On s'emmerde, il faut dire les choses.
C'est vrai. C'est pas... Bon, je compare, moi j'étais au Portugal le week-end dernier. Il y avait des affiches partout. Et c'est vrai.
Mais on s'en fout de ta life, Nikos. On s'en fout que tu fasses ta vie au Portugal. Je te parle de la nullité de la nôtre de campagne. Il n'y a que des candidats de quatrième choix qui disent tous la même chose. Mais lisez l'interview de Vauquier dans Le Parisien. Si vous n'avez que ça à foutre, il dit rien sur l'Europe. Il a raison, comme Bendit. Vaut mieux aller boire un coup en terrasse.
Ah, merci Jean-Michel. Du coup, bon ben voilà, la conclusion pour l'oiseau, c'est mort, dead capoute l'oiseau. Allez, au revoir Thomas.
Merci Danny.
Survolté.
Et si on instaurait un SMIC européen, se demandait le journal Le Parisien, il serait peut-être temps d'harmoniser le salaire minimum qui est de 1 500 € en France ou 446 € en Roumanie. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliagas.
Bonjour Monsieur.
Bonjour aux autres, des sous-fifres. Venus en transport, en trottinette ou en cabriolet. Porsche. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une balance, Monsieur Abiker. Vous deviez être beau ce matin avec votre chien King Charlobby, tous les deux, en cabriolet, truffe au vent, la goutte au nez. Mais j'arrête là, car l'auditeur s'en fout. Oui, nous disions, alors, nous parlions du SMIC européen, qui est un sujet plus passionnant que le chien de Monsieur Abiker. Quelle belle idée, harmonisons le SMIC. Harmoniser le SMIC pour que tous les Européens touchent la même somme. Ce serait tellement beau.
Ah, que les Roumains passent leur SMIC à 1 500 € comme en France?
Ah non, que le SMIC en France passe à 446 € comme les Roumains.
Ah bah d'accord.
Enfin, Julie, ouvrez les yeux, ne soyez pas... utopiste, bon. Soyez réaliste, pas de bêtises. 1 500 € par mois pour un Roumain. Mais le type qui gagnerait ça deviendrait la plus grosse fortune de Roumanie. En Roumanie, l'ISF est à partir de 700 € par mois, il faut le savoir.
Bon, merci Bruno Le Maire. Allez, on va revenir sur la campagne européenne de Nathalie Loiseau avec son mentor Alain Juppé. Bonjour.
Oui, bonjour la compagnie. Ah, il y avait longtemps, ça me fait plaisir de vous voir. C'est vrai.
Nous aussi.
C'est vrai, vous l'avez dit, je suis un peu son mentor à Nathalie Loiseau, c'est moi. C'est moi qui l'ai formé.
Oui, mais enfin, pour le moment, c'est pas terrible, hein.
Non, mais attendez, laissez-moi finir ma phrase. C'est moi qui l'ai formé à la défaite.
Ah, parce qu'on forme à la défaite.
Ah, ben oui, ah, oui, oui, monsieur Apathy le sait, c'est un fin observateur. Enfin, observateur, pardonnez-moi, de la vie politique. C'est chez le jupéiste, oui, vaut mieux se préparer parce que la défaite, c'est notre quotidien depuis 40 ans.
Alors, vous lui avez appris quoi, Nathalie Loiseau?
Alors, déjà, je lui ai dit, écoute Nathalie, pour faire une bonne défaite, il faut être terne.
Terne.
Si tu brilles, on va te remarquer et tu risques de gagner. Alors bien sûr, pour moi, c'était plus facile, j'avais une forme de facilité, je suis chauve et je mets des costumes gris. Mais toi, tu es une femme, c'est plus difficile d'être terne.
Et donc ?
Eh bien écoutez, je suis assez fier d'elle. On ne peut pas dire qu'elle brille vraiment, on est tous d'accord sur ce point. Ensuite, je lui ai dit, le mieux pour une défaite, c'est les casseroles. Alors là encore, pour moi, j'ai eu quelques facilités puisque je travaille aux côtés de Charles Chirac à la mairie de Paris.
Oh là là.
Mais je suis assez fier de Nathalie parce que Mediapart, vous le savez, a sorti qu'elle était sur une liste d'extrême droite à Sciences Po. C'est pas mal, ça peut lancer une bonne défaite, c'est une petite casserolette.
Alors un dernier conseil peut-être ?
Eh bien, c'est comme dans tout, il faut un certain facteur chance pour une bonne défaite, voyez-vous. Et là, j'avoue qu'en pleine année des Gilets jaunes, que Macron ait choisi une coinceuse de Neuilly, c'est quand même un sacré coup de bol pour elle. Bravo Nathalie, tout est réuni pour que tu sois une vraie jupéiste. La défaite est en toi, ma Nathalie.
Merci Alain Juppé. Éric Dupond-Moretti est apparu assez énervé par l'attitude de son client Patrick Balkany. Alors que l'avocat tentait de plaider de façon émouvante la cause Balkany auprès des journalistes, avec une femme fragilisée par une tentative de suicide et un mari de 71 ans qu'il a trouvé inanimé dans la salle de bain, Patrick Balkany, très détendu, a tenu à rectifier son âge en rigolant. On va revivre cette séquence.
Monsieur Dupond-Moretti, s'il vous plaît, une déclaration, s'il vous plaît.
Écoutez, il me semble franchement que ce procès vire à l'acharnement. Isabelle Balkany, nous le savons tous, est une femme fragile. Et son mari l'a trouvée inanimée, imaginez la scène, dans sa salle de bain. Un choc, un véritable choc pour un homme âgé de 71 ans.
Oh, qui a pour... non, 70, voyons. Ne vieillissez pas devant nos amis, allons, maître.
Oui, mais c'est pas bien grave. Hein. Bon, je disais donc un homme de 70 ans, qui était sous le choc de la découverte monstrueuse.
Écoutez, sous le choc, n'exagérons rien, maître. On dirait que vous décrivez une pucelle que je suis qui panique devant une araignée. J'ai quand même un peu plus de sang-froid que ça, maître. Puis, monstrueux, ça va. Oh, on parle d'Isabelle tout de même. Hein, elle a pris un coup de vieux d'accord, mais c'est pas devenu un vieux tromblon tout de même. Hein.
Oui, bon, mais ça va. Ok, je peux faire mon travail, s'il vous plaît?
Oui, allez-y.
Bien, je reprends. Patrick Balkany, puisque c'est de lui dont il s'agit, que vous voulez envoyer en prison, entre quatre murs. Pourquoi ? Pour quelques clopinettes dissimulées aux impôts, oui.
Attendez, qui n'a pas... clopinette. Mais merci, je me suis pas fait chier, maître, à planquer 13 putains de millions d'euros pour que vous disiez que c'est des clopinettes, pardon, mais j'ai un petit peu plus d'envergure que ça, je crois.
Tu veux pas fermer ta gueule, maintenant, hein ?
Ou alors tu te défends toi-même, hein, et tu finis à Fleury-Mérogis, dans 4 mètres carrés, entouré de deux Albanais qui faisaient du trafic d'organes. C'est ça que tu veux ? Alors ferme ta gueule, bon. Oh, oula, il est... Il est susceptible, monsieur mon avocat. Ça vous monte à la tête, ce procès, maître, hein, pardon. Mais bon, alors, on va bouffer, il y a un petit resto, là.
Ça s'annonce bien, le procès, là.
Excellent. Bravo, Nicolas Canteloup, bravo, Philippe Cabrivière, les auteurs, Laurent Vassilian, Arnaud Demange et Julie. Tous les jours, Nicolas Canteloup pour la revue de Presque. Le tour de la question à partir de 9h et jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard au programme ce matin.
Très vite, cher ami, on va vous aider à remplir votre déclaration d'impôt, les erreurs à éviter, qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel notamment, journée spéciale impôt avec nos experts. Et puis à 10h, la Tour Eiffel a 130 ans.
Et magnifique.
Elle est devenue depuis le symbole de la France. On vous raconte cette histoire avec notamment un des descendants de Monsieur Gustave Eiffel, génie s'il en est.
Et à partir de ce soir, je crois, pendant 3 jours, la Tour Eiffel proposera des shows,
spectacles musicaux,
lasers, couleurs, magnifiques.
Absolument.
Notre dame de fer qui nous rend si fiers. Rime plate. A tout de suite.
Si ça marche.
Wendy Bouchard attend vos appels au 39-21, 50 centimes la minute. Et à suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1.
Il est 8h55 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas, mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo avec Laurent Cameron, Nikos.
Un temps clément aujourd'hui, oui, clément. Et pour l'instant.
Et un petit peu fou parce que là en ce moment, on va faire très beau sur la France, hein, comme hier, avec quelques réserves sur le flanc est. Nous avons sur les Alpes-Maritimes et la Corse, nous aurons des averses et des orages. Et puis parfois de la neige, puisque... On vient de recevoir, hein, n'est-ce pas Céline, on vient de recevoir une image de la Corse,
oui,
où il neige.
Postée par Corse ce matin sur son fil Twitter, de fortes chutes de neige ont eu lieu dans le centre de la Corse cette nuit. Et d'ailleurs, la circulation est encore difficile dans certains
il
endroits.
Il neige
donc,
le 15 mai encore.
Alors c'est peut-être à 700-800 mètres d'altitude. Mais tout de même, c'est assez flagrant comme différence de temps. Il faut dire que sur la France, et bien sur le continent, pardon, nous aurons des valeurs de 60-70 km/h en ce qui concerne la bise. Et les températures qui vont s'échelonner sous abri, entre 15 et 19 sur la moitié nord, 19 à Paris, et entre 20 et 26 sur la moitié sud, 21 à Rennes, 23 à Toulouse et 26 degrés dans les Landes.
Vous avez Nîmes ? Parce que je m'y rends aujourd'hui et demain parce que
il fera entre 20 et 21 degrés. Aujourd'hui.
Bon, c'est pas mal, je prends. Pas de pluie.
Non, pas de pluie.
Tourne. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Nous sommes le mercredi 15 mai, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale, on vote déjà dans 10 jours pour les élections européennes, le 26 mai prochain. Mais on a l'impression que la campagne n'a pas encore commencé. Les Français semblent se désintéresser de ce scrutin. Explication avec Jean-Michel Apathy, son édito. C'était à 7h40.
Parmi les grandes listes, il n'y a personne qui dit qu'il faut que la France quitte l'Europe. Donc il y a en fait en France des consensus très importants sur l'Europe, ce qui vide la campagne de son intérêt. Le Rassemblement National dit l'inverse de ce que disait le Front National. Maintenant, il faut rester dans l'euro. Ces gens-là sont capables de changer d'avis comme de chemise et les électeurs les suivent. Ce qui fait que cette campagne électorale n'arrive à intéresser personne et que probablement le 26 mai, nous enregistrerons un record, celui des abstentions, hélas.
Les résultats ce matin du baromètre annuel de la Fraternité, 80% des Français considèrent que la diversité est une bonne chose. Mais de la parole aux actes, il existe toujours un fossé. À 7h45, je recevais le philosophe Abdennour Bidar. Il est le président de Fraternité Générale. On écoute son témoignage.
La fraternité, c'est quelque chose qui s'éprouve. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment, au moins dans ma semaine, dans lequel je peux interrompre le flux effréné de mes activités quotidiennes pour me consacrer à quelque chose qui a du sens. Le voisin auquel j'ai jamais pris le temps de parler, une fois de temps en temps, on fait un petit geste. Ouais, on vit dans une société qui est quand même un petit peu folle. C'est-à-dire, non seulement elle est très divisée, mais elle va beaucoup trop vite et elle ne nous laisse pas le temps de prendre soin de la relation à l'autre.
Et puis cette nouvelle qui va agiter le mercato footballistique, Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid après 5 saisons. Le champion du monde l'a annoncé hier dans un message vidéo, il pourrait rejoindre le FC Barcelone pendant l'été. C'est une supposition, on l'écoute, c'était dans le journal de 8h.
J'ai pris la décision de partir pour voir d'autres choses et relever d'autres défis. Ça a été difficile de faire ce choix-là, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et je tiens à vous remercier pour toute l'affection que vous m'avez témoignée au cours de ces 5 années.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci de votre fidélité, merci à toutes les équipes. Demain, c'est Pierre de Villeneuve qui sera au micro de la matinale et on se retrouvera très vite. Je suis en tournage, pardonnez-moi, je ne pourrais pas être là avec vous, ma chère Céline de Costa.
Mais je reviens vite.
Dès lundi. Wendy Bouchard, le tour de la question avec Julie, ça commence dans quelques secondes.
Nous sommes là, vous appelez dès maintenant au 3921. À très vite, Nikos.
Prenez soin de vous.